BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir sur BFM Business. Dans l'actualité de ce lundi soir, on a des marchés qui sont... plutôt en forme, on va dire, plutôt rassuré, 24 heures à peine après le résultat du premier tour des élections législatives, la Bourse de Paris qui gagne ce soir un peu plus d'1%. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir, vous me direz, de cette relative sérénité? On va aller retrouver Étienne Brack qui est à Euronext, bien sûr, dans un instant. On parlera aussi du long terme ce soir jusqu'à 20h, avec cette possible majorité, même relative, pour le Rassemblement National, avec quelles conséquences pour l'économie française. On parlera notamment avec l'économiste Philippe Aguillon, qui sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans 10 minutes. Dans Good Evening Business. Et puis les marchandages, vous le savez, en attendant, ont commencé pour obtenir quelques désistements ici ou là, notamment du côté du Front Populaire. Et on sait ce qui a servi d'ores et déjà de monnaie d'échange, c'est la réforme de l'assurance chômage qui a été suspendue. Gabriel Attal l'a annoncé dès hier soir. De tout cela, on parle parce que ça sera bien sûr tout cela notre grand sujet de discussion ce soir avec nos experts qui arrivent bien sûr dès 18h30. Voilà le programme non exhaustif. Good Evening Business jusqu'à 20h. C'est parti, bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc pour commencer, on va prendre des nouvelles des marchés financiers parce qu'évidemment c'était la grande question hier soir, comment allait-il réagir ce lundi? Bonsoir Étienne, on vous retrouve depuis Euronext à Bonsoir. La Défense pour BFM Business. On a ouvert en hausse, forte hausse ce matin, et puis ça s'est calmé mais on gagne quand même un petit pourcent ce soir à la clôture. Qu'est-ce que les marchés achètent fondamentalement ce soir Étienne?
Écoutez, comme on dit souvent, le marché achète la rumeur et il vend la nouvelle. Là, au final, il clôture en hausse avec des sondages, souvenez-vous, la semaine dernière, qui donnait un Rassemblement National à 37-38%. Finalement, il est à 34%. Et puis, la plupart des économistes, aujourd'hui, dans leurs notes, qui tablent, au final, sur pas de majorité pour les partis en place. Et puis, un gouvernement qui va expédier les affaires courantes sans grand mouvement. Pendant un moment, le marché était en stress par rapport à une éventuelle arrivée du nouveau Front Populaire au gouvernement. Les sondages montrent que ça reste pour l'instant peu probable. À noter que le CAC 40 a quand même réduit largement ses gains ce soir, puisqu'il gagnait plus de 2% début d'après-midi, finalement 1% ce soir à la clôture. Et puis le marché obligataire envoie également certains signaux. Regardez le 10 ans français qui est sur des plus hauts de novembre dernier à 3,35, le spread entre la France et l'Allemagne qui se stabilise à 75 points de base. Et puis surtout, ça sera une semaine importante pour le marché obligataire avec jeudi la France qui va émettre entre 8 et 10 milliards de dettes à long terme. Donc ça sera vraiment là que ça va se passer, à quel prix les investisseurs vont adjuger la dette française. Donc une semaine qui va encore être volatile en fonction de marchés obligataires et puis surtout en fonction des sondages jusqu'au, bien sûr, le second tour qui va se dérouler dimanche soir.
Ça va rester évidemment très tendu dans les prochains jours. Merci beaucoup Étienne Brack avec nous. On vous retrouve évidemment dans quelques minutes pour voir ce qui a bougé aujourd'hui à la Bourse de Paris. Étienne, ce qui soulage les marchés notamment, ce sont aussi ces discussions qui ont commencé pour obtenir des désistements ici ou là. Et je vous le disais, pour faciliter les choses, Gabriel Attal a donc annoncé hier soir qu'il suspendait tout simplement la réforme de l'assurance chômage. Caroline Morisseau.
Marche arrière toute. Après avoir affirmé haut et fort que la réforme serait maintenue, Gabriel Attal a finalement décidé de la mettre sur pause. Toutes les mesures qui devaient entrer en vigueur le 1er décembre prochain, comme la baisse de la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans, ou encore le durcissement des conditions d'ouverture des droits pour être indemnisés, sont donc mises entre parenthèses. Un décret va bien être publié dès aujourd'hui, mais uniquement pour prolonger les règles actuelles jusqu'au 31 juillet prochain, le temps que la situation politique se clarifie. Cette réforme pourrait ainsi faire l'objet d'aménagements, de discussions entre forces républicaines. Il s'agit du premier acte de Gabriel Attal dans l'esprit de futures majorités de projet, explique-t-on à Matignon. L'objectif est clair, donner des gages aux partis et aux électeurs de gauche afin de tenter de marquer des points lors du deuxième tour des élections législatives le week-end prochain. Cette décision n'est toutefois pas partagée par tous au sein de l'ancienne majorité. Ce matin, Bruno Le Maire a regretté ce choix et insiste sur la nécessité de faire cette réforme.
Voilà, Bruno Le Maire qui a donc critiqué ce choix de suspendre la réforme. Écoutez, alors c'est un peu surprenant ce que nous disait ce matin le vice-président de la CPME, Éric Chevet, qui était l'invité de BFM Business. Lui a sondé ses adhérents et pour quasiment la moitié des petits patrons, en fait, cette réforme contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il considère que c'est la réforme de trop finalement. Écoutez.
À la CPME, nous avons fait une enquête la semaine dernière auprès de nos adhérents et plus de 1000 de nos adhérents ont répondu et nous avions glissé une question sur l'assurance chômage et à notre grande surprise, 50% des chefs d'entreprise qui ont répondu à cette enquête s'interrogeaient sur cette réforme supplémentaire, ce nouveau décret qui était en préparation. Et donc, nous analysons ça quand même comme étant le fait qu'on est au bout quand même d'un système en matière d'assurance chômage, d'un système de réforme paramétrique, si je puis dire. Là, nous sommes devant nous, devant, de notre point de vue, la nécessité de remettre à plat complètement le dispositif et de repenser de façon systémique la question de la protection sociale emploi-formation en France.
Et pour ça, par contre, il faudra un gouvernement
non,
et
pas
il faudra
forcément.
Prendre des
si
décisions.
Si les partenaires sociaux s'en saisissent, ouais. Nous pourrions le faire avancer, surtout dans un univers politique incertain. Et là, c'est un appel que nous, CPME, nous envoyons aux partenaires sociaux.
Voilà Éric Chevet, voilà donc pour ce premier tour des élections législatives qu'on va bien sûr commenter largement en direct ce soir jusqu'à 20h sur BFM Business, 18h04. Dans le reste de l'actualité, nous sommes le 1er juillet. C'est la Hongrie de Viktor Orban qui prend officiellement les rênes de l'Union européenne pour 6 mois. Il a promis, je cite, d'agir avec impartialité, je cite, durant cette période. Et puis, dans l'actualité des entreprises ce soir, il y a Bruxelles qu'on n'arrête plus, qui cette fois a Meta dans son viseur. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
En gros, Fred, Bruxelles estime que payer pour avoir accès à des contenus sans pub, c'est contraire aux règles européennes. Et donc, Meta doit se mettre en ordre pour éviter une grosse amende sur ce sujet, apparemment.
Oui, doit se mettre en ordre. Et puis surtout, ce qu'il faut regarder, c'est prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On est entre le coup de pression sur la big tech et le coup de communication. Parce que, en gros, on s'explique. Vous savez, ces réglementations européennes, le DMA, le DSA, sont entrées en vigueur en novembre 2022. Et puis, elles ont été applicables beaucoup plus tard. Donc, il y a un an pour le DMA et il y a quelques mois pour le DSA. Alors, certes, la Commission européenne a laissé plusieurs mois aux plateformes pour qu'elles s'organisent, pour être conformes à ces réglementations. Mais aujourd'hui, la fête est finie concernant le DMA. C'était il y a quelques jours. Apple a été averti parce que justement, il n'appliquait pas certaines pratiques concurrentielles en interdisant par exemple aux développeurs d'applications de rediriger les utilisateurs vers des offres extérieures à son propre App Store. Et puis là, dans le collimateur, c'est Meta avec Facebook, Instagram qui ne veut pas laisser le choix aux utilisateurs. Si vous voulez pas de pub, il faut payer. Sinon, ça reste comme ça. Mais justement, c'est ce qui ne plaît pas à la Commission européenne. Et là, alors ils ont tous deux quelques mois, que ce soit Apple ou Meta, ils ont quelques mois pour se mettre en ordre de marche. Sinon, la sanction peut être lourde, des 10% du chiffre d'affaires. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faut voir dans tout ça? Il y a deux raisons. La première, c'est l'Union européenne a enfin tiré les leçons de toutes ces années passées à se faire avoir. Donc là, aujourd'hui, elle ne veut plus se faire avoir par la domination des big tech, surtout qu'il y a l'IA qui arrive, donc au risque de passer pour un régulateur parfois trop contraignant par rapport aux innovations, eh bien la Commission européenne veut jouer sa partition et donner une chance aux acteurs européens, surtout que je vous l'ai dit, se profile l'IA Act, le Data Act, donc là, et on sait que les gens américains sont très présents. L'autre raison, alors ça tient plus de la communication politique, suite aux élections européennes, la Commission est en train de préparer son président, ses vice-présidents, ses commissaires à la concurrence et tout ça, et là, montrer qu'on a un peu de caractère et qu'on ne manque pas de cran face au big tech, eh bien c'est une façon de montrer que voilà, on peut être l'homme ou la femme de la situation. Et ça aussi, ça joue aussi dans ces décisions.
Absolument. Voilà, on sent que Bruxelles durcit le ton. Ça y est, durcit le ton. Là, c'est parti directement en direction des GAFA. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business en France. Premier semestre en léger hausse pour le marché auto, quasiment 915 000 ventes. 3% de plus qu'il y a un an sur la même période, sauf que la plateforme auto qui nous donne ces chiffres nous prévient qu'elle est moins optimiste pour le deuxième semestre apparemment. La courbe a commencé à se tasser dès le mois d'avril. Et puis Boeing, c'est officiel, qui va racheter une partie de son gros sous-traitant Spirit Aerosystems, dont il s'était séparé il y a une vingtaine d'années. Une partie sera néanmoins reprise par Airbus. Les deux constructeurs l'ont confirmé aujourd'hui. 18h07, on retourne sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Brack. Rebonsoir Étienne. On le disait, donc hausse de 1% pour le CAC 40. Mais il y a quelques valeurs, quelques secteurs qu'on a profité pour rebondir un petit peu quand même.
Oui, très clairement, regardez le secteur bancaire qui gagne plus de 3% ce soir à la clôture, avec BNP au-delà des 61, Société Générale au-delà des 22 euros, ou encore Crédit Agricole qui gagne un peu plus de 13 euros, avec, comme je vous le disais il y a quelques minutes, le marché qui table désormais sans grande majorité à l'Assemblée nationale, et donc toutes les inquiétudes par rapport au programme du Rassemblement national et par rapport au programme du NFP sont désormais mises de côté. Du côté des baisses à souligner Dassault Systèmes, Hermès ou encore STM qui perdent plus d'1% ce soir à la clôture, hors CAC 40 à souligner Air France KLM qui est sur des plus bas historiques, la valeur perd 1,5%, avec le groupe qui, dans un communiqué ce matin, s'attend à une baisse de la fréquentation à Roissy-Charles de Gaulle, à cause notamment des Jeux Olympiques, puisque vous allez avoir moins de touristes à Paris pendant les JO, et puis dans le même temps, peut-être des Français qui vont décaler leur voyage. Donc tout ça va avoir un impact sur les recettes unitaires cette année, 8,10€ ce soir à la clôture. À l'inverse, ça va beaucoup mieux pour Fountaine Pajot, qui gagne plus de 5%, spécialiste des catamarans, qui est confiant pour les prochains mois, avec des commandes qui sont toujours au rendez-vous. Et donc le CAC 40 qui gagne 1% ce soir à la clôture, après avoir gagné plus de 2% en séance, sous les 7600 points, 7561 points ce soir à la clôture, mon cher Guillaume.
Merci mon cher Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, c'est la mi-séance bien sûr. Le Dow Jones qui gagne 0,12%, 39166. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,35%, 17 794 points. Tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est l'économiste Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Philippe Aguillon, économiste, bien sûr, professeur au Collège de France et à l'INSEAD, co-président de la Commission de l'intelligence artificielle. Bonsoir Philippe Aguillon. Merci d'être avec nous. Effectivement, vous avez commis avec Anne Bouvreau un rapport sur l'intelligence artificielle. Vous avez aussi donné un peu dicté ce qu'il fallait faire pour que la France aille développe l'intelligence artificielle. Vous nous direz si tout ça c'est à remettre dans un placard ou si toutes les ambitions sont brisées ou au moins revues à la baisse. Philippe Aguillon, on a vraiment assisté à des batailles d'économistes, des économistes de renom, que ça soit du côté du nouveau front populaire ou que ça soit du côté plus libéral. On a vu votre tribune il y a encore quelques temps dans les Échos. Il y a eu celle évidemment de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard pour expliquer, donc libéral, ancien patron, chef économiste du FMI, prix Nobel, pour nous expliquer pourquoi il fallait à la limite presque continuer actuellement. Ça y est, là, on est là, au lendemain du premier tour. On voit que ça va être difficile de continuer la politique économique qui a été donnée. D'abord, est-ce que vous, vous êtes inquiet ce soir ou pas?
Oui, je suis inquiet parce qu'on fait face à, on fait face à un risque important. Le programme du nouveau Front Populaire est un programme dangereux, c'est un programme qui nous mettrait dans le mur avec d'énormes dépenses, abroger la réforme des retraites coûterait 17 milliards d'euros si on revient sur la retraite à 64 ans, plus 36 milliards si on revient à la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC à 1600 euros, nous obligerait l'État à dépenser plusieurs dizaines de milliards pour éviter que ça conduise à une destruction de plusieurs centaines de milliers d'emplois.
Ça, c'est du côté du nouveau Front Populaire.
Ben voilà, voilà. Ouais. Et ils disent on va le financer avec des impôts, mais en fait, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. Et en fait, s'ils augmentent les impôts comme ils préfèrent le faire, les recettes fiscales vont en fait baisser. Donc en fait, c'est un programme qui n'est pas financé. Donc
okay,
c'est un programme
mais de l'autre
qui...
côté,
donc, ça, c'est le Et de l'autre côté, on a un programme qui est le programme du Rassemblement National. Voilà, la baisse de 5,5% de la TVA sur l'énergie, qui coûte 10 milliards d'euros, suppression de impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, nationalisation des autoroutes qui coûte entre 30 et 45 milliards d'euros, retour à la retraite à 60 ans, etc.
Mais Philippe Aguillon, oui.
Mais évidemment, alors maintenant, ils reviennent dessus. Ils disent, oui, mais on ne le fera pas. Et alors, absolument, du coup, il y a une espèce de grande incertitude. Et puis, surtout, le RN, ça nous plongerait vraiment dans un isolement. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est dangereux.
On
viendra là-dessus.
Oui,
quoi.
On va revenir là-dessus parce qu'en plus, je crois que vous republiez demain une autre tribune pour
absolument
expliquer pourquoi le Front
avec
National...
Avec Lampisani et Alexandra Roulet dans les Échos.
Voilà, oui, le Rassemblement
absolument
National... Et ce qui est le plus dangereux sur le plan économique. Hein, on reste sur le plan économique, même si évidemment c'est difficile de scinder les deux. Moi, il y a un truc qu'on est tous en train de se poser, comme question. On a eu des économistes, tout le monde. La semaine dernière, j'ai fait beaucoup de débats. C'est-à-dire, tout le monde se dit économiste. On a vu les plus grands économistes se déchirer. Je parlais de vous, de Tirole, de Blanchard. L'autre côté, vous avez Piketty, vous avez Julia Caget, vous avez Michael Zemmour que j'ai reçu ici. Donc, on a toutes les personnalités, les people de l'économie qui s'entre-déchirent. Ça veut dire vraiment, c'est pas une science exacte, hein, l'économie.
Je pense que, je vais pas critiquer.
En tout cas, ma façon de travailler personnellement,
c'est de dire voilà, il y a un programme, il coûte tant, comment il est financé, et est-ce que les recettes vont correspondre aux dépenses qui sont prévues.
Oui, mais derrière, on peut dire il y a un choc de la demande, choc de la consommation, ça va créer la croissance. Enfin, en tous les cas, c'est le raisonnement qu'ils font.
Bien sûr, mais on est en économie ouverte. Donc, si tu dis, je fais juste une relance par la demande, on a essayé en 1981 et ça a simplement creusé le déficit commercial. Donc, on est obligé. C'est par la productivité. Ce qu'il faut, c'est il faut produire. En gros, on ne peut pas prétendre consommer plus sans produire plus. Donc moi, je prends au sérieux ceux qui disent, voilà, moi je suis prêt à offrir davantage de prospérité, mais je vais produire la prospérité. Il faut montrer comment je la produis. Et pour ça, il faut une politique de croissance.
Oui, mais alors à ce moment-là...
Ceux qui viennent et qui n'ont pas une politique de croissance, qui ne vous disent pas comment ils vont générer un gâteau plus gros pour pouvoir ensuite le partager, là, il y a raison, on doit se poser des questions.
Oui, mais alors, écoutez Thomas Piketty qui vous dit, mais le gâteau, il est déjà énorme. Regardez le nombre de milliardaires qu'il y a. Le gâteau, il est énorme. C'est un problème de répartition et il y a urgence.
Mais on ne peut pas séparer la répartition de la production. Il y avait ce qu'on appelait le théorème de Coase. Le théorème de Coase, qui était un grand économiste, qui a eu le prix Nobel, disait que c'est sous certaines conditions, on peut séparer totalement la répartition de la production. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous surtaxez les individus, les individus produisent moins, partent à l'étranger, n'entreprennent plus. Et donc, la taille du gâteau baisse. Et c'est pour ça que trop d'impôts tue l'impôt. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Pas d'impôts. Évidemment, il faut des recettes fiscales, et je suis pour une fiscalité redistributive, mais trop d'impôts finit par tuer l'impôt, parce qu'à ce moment-là, vous réduisez les revenus générés. Et ce que je dis est très concret. Quand on a fait les réformes fiscales de 2017, le passage à la flat tax, à la taxe à 30%, ça a augmenté les revenus fiscaux.
Enfin non, ça a augmenté les revenus sur les sociétés, mais pas...
Oui,
ça
mais globalement, les revenus fiscaux ont augmenté.
Non, oui, mais ça n'a pas compensé l'impôt sur la fortune, enfin le rendement de l'impôt sur la fortune.
Mais si, parce qu'on a eu des revenus fiscaux, parce que l'activité économique a été dopée. Et donc le dopage de l'activité économique a fait que ça a plus que compensé la perte qu'on
donc
a eue sur l'impôt sur...
Vous êtes un macronien et vous le restez, Philippe Aguillon. Vous êtes macroniste ou macronien, je ne sais pas ce qu'on dit, et vous
c'est
le restez.
Non, c'est pas le dernier... problème de macronien. Moi, je suis un bon social-démocrate, Mais je suis un social-démocrate de la production, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut redistribuer ce qu'on ne produit pas. Il faut produire pour redistribuer. Et je suis pour une croissance inclusive, je suis pour la mobilité sociale, je suis véritablement social-démocrate.
Oui, mais
comme les Allemands, comme les Danois, c'est-à-dire c'est des sociaux-démocrates qui vous disent je ne peux pas redistribuer
mais
ce que je ne produis pas.
Qu'est-ce qu'ils ont manqué en termes de politique économique? Parce qu'on voit bien dans quelle situation nous nous trouvons. Donc il s'est bien passé quelque chose, en tous les cas les Français n'ont pas suivi, et peut-être que les Français ont des revendications qu'il faut écouter.
Oui, alors moi je crois que ce qui a manqué, alors il y aura certainement une analyse a posteriori, je pense que la politique économique qui a été suivie depuis 2017 il y a eu de très bonnes choses de fait. Je pense que la réforme fiscale, la réforme du marché du travail, la réforme de la formation professionnelle, il fallait les faire. La réforme des retraites, alors je ne l'aurais pas faite exactement comme ça, mais il fallait en faire une. Et je pense que, il y a eu des réformes qui ont été utiles. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'emplois créés, il y a eu beaucoup d'entreprises créées, on a inversé la désindustrialisation en France, c'est-à-dire il y avait vraiment un gros mouvement de désindustrialisation. On a endigué la désindustrialisation en France. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été bonnes. Ce qui n'a pas été bon en France, c'est qu'il y a eu une absence de dialogue social. Je pense que, et notamment au moment de la réforme des retraites, moi je m'étais exprimé à ce moment-là, je pense qu'on pouvait davantage dialoguer avec notamment la CFDT. On n'a pas tiré parti du fait que la CFDT est un syndicat réformé. Ça a manqué. Oui. Donc ça, on pourra revenir là-dessus. Mais la politique économique n'était pas foncièrement mauvaise.
Alors, au contraire, vous écoutez, c'était plutôt la bonne politique qu'il fallait suivre. Puisqu'on y est, vous abordez cette question du dialogue social. Vous avez vu donc hier soir, il y a le Premier ministre qui a donc annoncé finalement... Peut-être pour faire un petit peu de politique, il a annoncé finalement qu'il suspendait la réforme de l'assurance chômage et qu'il y aurait juste un décret de délai de carence.
Oui.
Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que c'est pourtant de la main aux Républicains? Est-ce que pour vous, ou au contraire, comme dit Bruno Le Maire, comme quoi il y avait un peu de dissonance, c'est une erreur de suspendre cette réforme de l'assurance chômage. Que dit Philippe Aguillon? Voilà.
Ben, Philippe Aguillon, je ne suis pas spécialiste du marché du travail, d'autres le sont, mais Philippe Aguillon, ce qu'il pense, c'est que cette réforme-là n'était pas indispensable. Il y avait la réforme Borne. Borne avait fait une réforme qui était très bien, qui rendait l'assurance chômage contracyclique, c'est-à-dire qu'on durcit un peu en période d'expansion et on assouplit en période de récession, en période de croissance faible. Et là, maintenant, comme on rentre en une période de croissance faible, et la croissance, normalement, devrait reprendre. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt vont finir par rebaisser. Donc, normalement, la croissance devrait repartir. Et donc, forcément, automatiquement, rien qu'avec la loi Borne, il y avait durcissement déjà des règles de l'assurance chômage. Mmh. Je ne pense pas qu'il était indispensable d'en rajouter une couche par rapport à la loi Borne. Je l'ai écrit, d'ailleurs. Ouais. Donc, je pense, il y avait une loi. Eh bien, il fallait simplement appliquer cette loi. Voilà.
Là, on se trouve
face à des... Donc, je suis très clair là-dessus. Je n'ai jamais vu la nécessité de cette réforme supplémentaire par rapport à la loi Borne.
Eh bien, là, au moins, c'est clair. Vous avez flingué les économistes de nouveau. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est vraiment ça. Vous avez flingué les économistes du nouveau Front populaire. Mais en même temps, demain, vous sortez une tribune chez nos confrères Les Échos où vous dites le grand danger, c'est le Rassemblement national. Le programme du Rassemblement national. Parce que là, vous faites de la politique ou vous faites de l'économie, Philippe Aguillon ?
Non, la chose que l'on dit, c'est la suivante. C'est un peu des deux. Parce que, bon, on s'exprime, on est quand même entre deux tours. Donc, ce qui se passe, c'est la chose. Donc, d'abord, je sors dans Challenge jeudi, une chronique où je commence d'abord par dénoncer le programme du nouveau Front populaire, d'accord, montrer en quoi il nous met dans le mur, et ensuite je dis le programme du RN ne vaut pas mieux, d'accord, donc je les mets tous les deux sur le, en termes de ça, sur le,
mais en même
sur
temps, pardonnez-moi,
mais en même temps, en même temps, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, il y a double différence, c'est que d'abord le RN, il est aux portes du pouvoir. Ce que n'est pas la France insoumise. Il faut être clair, le RN est aux portes du pouvoir, d'accord ? Et le RN, je pense qu'il y a un risque, c'est pas juste le programme, c'est que le RN a un agenda très dangereux, même à long terme, par-delà son programme, d'accord ? Par-delà le programme qu'il peut afficher, d'ailleurs, il fait semblant qu'il revient sur certaines mesures qui créent de l'incertitude parmi les investisseurs, mais par-delà
son programme économique.
C'est un programme qui, dans son ADN, a vraiment l'idée, c'est-à-dire, c'est le nationalisme, c'est l'hostilité à l'Europe, je ne vais plus payer mes contributions, par exemple, ma contribution à l'Union européenne, je ne la paye plus comme je devrais. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, je vais avoir une attitude confrontationnelle à l'égard de l'Europe. Voilà. Et ça, à un moment où l'Europe, plus que jamais, a besoin d'être unie pour faire face à toute une série de défis. Il y a le défi, évidemment, de l'Ukraine, il y a le défi environnemental. Il y a le défi de l'innovation de rupture. Vous savez qu'il y a l'innovation de rupture qui est faite aux États-Unis et en Chine, et l'Europe est à la traîne. Donc l'Europe a des défis à relever. Pour ça, elle doit être unie. Et l'ERN ne montre pas le chemin d'une Union européenne. Elle tourne le dos à l'idée qu'on doit ensemble relever ces défis. C'est ça, par-delà les programmes, vous voyez, c'est pas juste les programmes, c'est les postures, c'est les réactions. C'est je confronte, je joue mon jeu moi-même. On l'a vu même au moment du Covid, là où on a eu raison, nous, de dire on va produire les vaccins tous ensemble. Le Rassemblement national disait on ferme les frontières, c'est nous tout seuls. Quand on a fait le pass vaccinal, ils ont expliqué une étude qui montrait les vertus du pass vaccinal. Le même jour, Madame Le Pen va sur la plateau télé en disant cette étude est fausse parce que c'est une grande économètre, Madame Le Pen. Vous ne saviez pas. Elle peut vous dire tout de suite qu'une étude scientifique est fausse. Si vous voulez, c'est les réactions, c'est la façon de réagir. Tout le débat sur la binationalité. Vous voyez, je veux dire, les signaux ne sont pas bons. Je veux dire, il y a les programmes et puis il y a les signaux. Et les signaux sont des signaux. Sont des signaux de fermeture, de xénophobie. Si vous voulez, qui tournent le dos à cette Europe qui doit se moderniser pour pouvoir être pleinement dans les défis du 21e siècle.
Oui, alors là, en ce moment, la présidente tournante est assurée par Viktor Orban, le président de la Hongrie.
Voilà.
On ne sait pas si c'est lui qui va vraiment conduire vers une modernisation de l'Union européenne.
Enfin, peu importe, on sait très bien qui sont les moteurs de l'Europe. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a les Danois, il y a d'autres, l'Italie. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose aussi. Regardez Mélanie, c'est très intéressant. Beaucoup de gens ont dit, mais regardez Mélanie, finalement, elle est très bien, elle parle à Draghi, sur l'Ukraine, elle est très bien. Mais en fait, Mélanie, elle est en train de vouloir changer la constitution en Italie pour réduire les pouvoirs du président. Or, le président de la République en Italie est une force de stabilité. Ouais. C'est Napolitano qui a nommé Mario Monti et qui a donc restabilisé l'Italie. Puisque plus récemment, c'est Mattarella, le président actuel, qui a fait venir Draghi. Donc, c'est une force de stabilité. Or, elle veut, s'en prendre au pouvoir d'une des chances qui est stable là-bas. C'est comme ça, oui, faire très attention. Parce qu'ils avancent masqués. Ils disent, mais non, des gens très fréquentables. Et puis, en fait, ils mettent leur pion et ensuite, après, ils poussent. Et nous, la peur que j'ai, moi, c'est pas juste les programmes. C'est que le RN, dans son ADN, il tourne le dos. Il n'a pas la vision. La France ne peut être forte que dans l'Europe. Et la France est forte et l'Europe est forte. Et on se renforce mutuellement. Ils n'ont pas cette vision-là. Oui, c'est pas dans leur ADN.
C'est sûr, oui. Un mot quand même, parce que le temps passe vite, hein,
oui.
Sur l'intelligence artificielle. On s'en souvient, vous étiez venu ici même avec Anne Bouvreau. Vous avez commis un rapport que vous avez remis à Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle, avec une série de mesures. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais est-ce que là, vous vous dites... Vous avez vu, dans les programmes, on ne parle pas du tout d'intelligence artificielle, de recherche, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Absolument.
Dans aucun des programmes. Enfin, il y a un vaste... Il y a éventuellement un mot dans le programme.
C'est ça qui m'a atterré. Que ce soit le programme du Nouveau Front Populaire ou du RN, il n'y a rien sur la politique de recherche et d'innovation. Comment je favorise l'innovation de rupture? Comment je ne manque pas la révolution de l'intelligence artificielle? Or, c'est par l'innovation et pas par le protectionnisme et le repli sur soi que l'Europe et la France vont exister face à la concurrence de la Chine et des États-Unis. Une attitude, c'est de dire « mais j'existe en innovant », et l'autre, c'est de dire « je fais du protectionnisme, je mets des barrières douanières ». Et donc, c'est pour ça que... Et ça, c'est une autre raison pour laquelle je défends le bloc central, parce que seul le bloc central propose une vraie politique d'innovation, que ce soit l'IA, que ce soit la transition énergétique, qui est conséquente. Après, on peut critiquer tel ou tel aspect, mais c'est fou que ce soit absent et du programme du Nouveau Front Populaire et du programme du RN. Ils ne voient pas que l'innovation, c'est le moteur aujourd'hui.
Quand on voit, c'est clairement le moteur, et c'est clairement le moteur des États-Unis, et c'est une des explications du décrochage européen.
Absolument.
Par rapport
nous n'avons pas de la politique industrielle comme le font les Américains.
Et on n'a pas les fonds, on n'a pas les poches profondes.
Et on n'a pas non plus l'équivalent de ce qu'on appelle les DARPA, vous savez, les Defense Advanced Research Project Agency, qui sont une manière très moderne de faire de la politique industrielle qui est pro-concurrence. Parce qu'il faut à la fois de la concurrence, on sait que la concurrence est un moteur d'innovation, et il faut de la politique industrielle. Il y a une façon de faire de la politique industrielle qui dit je choisis des champions, ça va contre la concurrence. Mais il y a une manière moderne d'en faire qui est la manière des DARPA américaines. Et c'est ça qui nous manque en Europe. Et c'est ça que le Front National ne va jamais pousser. Non, absolument. Mais le danger maintenant, c'est que le danger, c'est Bardella à Matignon. C'est ça le danger. Aucune projection ne vous donne LFI à Matignon. Mais beaucoup de projections vous disent il y a un danger de Bardella à Matignon. Et moi, je suis prêt à faire tout pour l'éviter. Je ne veux pas de Bardella à Matignon.
Oui, est-ce que ça veut
no
dire...
way, quoi. Oui.
Est-ce que ça veut dire quand même que tout ce qui touche l'intelligence artificielle, ça va être, c'est un peu la catastrophe là. Vous avez été enterré parce que la French Tech,
ça sera pas bon quoi. Voilà,
elle n'existe plus.
En tout cas, je veux tout faire pour que la France, parce que la France, vous voyez, on a des chercheurs formidables, on a des ingénieurs, on a des spécialistes du numérique en France, on a des ressources formidables pour jouer un rôle. Il y a toute une série d'applications de l'IA, de l'intelligence artificielle, et où on est très bon. La santé, on a des données de santé formidables, on a des atouts formidable. Mais ce n'est pas avec le RN et avec le Nouveau Front Populaire qu'on va pouvoir les mettre en valeur. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans ce bloc central, qu'il peut jouer un rôle. Ça prendra une autre forme qu'avant. Je pense beaucoup que ça sera une démocratie parlementaire, avec des partis qui discuteront, comme dans les autres pays européens, un peu comme ça se fait. Ça ne sera pas comme c'était jusqu'à maintenant. Mais je pense que le bloc central a un rôle clé à jouer pour permettre à la France et à l'Europe de jouer un rôle moteur et de tirer parti de ses atouts.
Juste en un mot pour simplifier, mais après tout, comme vous êtes professeur au Collège de France, là, en fait, c'est une bataille entre la politique de l'offre et la politique de la demande. Comment la résoudre? Si vous êtes devant vous des étudiants, que nous sommes,
Vous dites quoi? Mais je dis aux étudiants que c'est important, il faut de la demande, parce que la demande stimule l'offre. C'est pas que je dis la demande n'existe pas, mais il faut qu'on puisse répondre à la demande. Si, par exemple, je fais une relance par la consommation, mais que je n'ai pas fait les innovations nécessaires, à ce moment-là, il va se passer ce qui s'était passé après 1981. Les gens vont acheter, vont importer simplement. Ouais. Et donc, notre déficit commercial qui est déjà abyssal va se creuser encore davantage. Et donc, le seul moyen de pouvoir augmenter la consommation et le bien-être sans creuser la balance commerciale, c'est d'accroître notre productivité. Et pour accroître notre productivité, il n'y a pas d'autre moyen que d'innover et d'investir dans l'innovation.
Et voilà, et en même temps, il y a d'autres économistes qui disent l'inverse.
Et voilà, je les confronde quand vous voulez.
Et bien voilà, on va faire un débat, Philippe Aguillon, Thomas Piketty, ça va être intéressant. Merci beaucoup,
en
tous les cas, d'être venu.
On
a bien compris, en tous les cas, le message et votre tribune de match à nos confrères des Échos. Et rappelez votre livre, L'IA, notre ambition pour la France, ça paraît un peu dépassé.
Chez Odile Jacob. Tout est devant nous. Vous savez, je suis un optimiste.
Tout est devant nous. Et puis nous, on se retrouve à Aix-en-Provence.
À bientôt.
Pour parler d'économie de rupture. Merci. Là, c'est Guillaume Paul qui nous apporte toute l'info éco.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, il est bientôt 18h35. On est reparti jusqu'à 20h en direct. Good evening business, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous et nos experts qui sont là. Emmanuel Le Chypre avec ce sens de timing incroyable qui vient de s'installer. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Il est fort, hein, il a un sixième sens. C'est ça. Edwige Chevrillon qui est avec nous. Bonsoir Edwige.
Bonsoir.
Pour revenir, bien sûr, pour commencer sur l'interview que vous accordez Philippe Aguillon. Alors, qui, sans surprise, a mis dos à dos les programmes du RN, du Rassemblement National? Et non, bah, su quand même, non,
non.
Emmanuel.
Bah, quand même, dans au départ, attendez,
au départ,
il est sur le.
Voilà.
Il est contre le nouveau. Front Populaire, en disant c'est ce qu'il y a de plus dangereux, etc.
Oui.
Et puis, en fait, il décortique aussi celui du Rassemblement National. Et là, il prend une position, comme il l'a fait ce soir, il le fera encore demain dans les Échos. Il fera une position très catégorique contre le Front National. Parce que, comme il dit, bah, le risque maintenant, il est sur le Rassemblement National. Il n'est plus sur le nouveau Front Populaire. Et donc là, il y a des propos quand même très forts sur ce programme.
Oui, mais là où Emmanuel a raison, parce que je pense que c'est de ça dont vous alliez parler, il a publié en effet une première tribune la semaine dernière, et je cite, « Je suis atterré de voir certains collègues économistes utiliser leur nom et leur notoriété pour cautionner le programme économique du nouveau Front Populaire. »
Oui, c'est ça, il l'a flingué. Au départ, il l'a vraiment flingué. Mais voilà, ça c'était la semaine dernière, et là, il y a là, on est au lendemain du premier tour, et donc effectivement, le risque est un peu différent. Ah bon, ça, il flingue Julia Cagé, Thomas Piketty,
voilà.
Michel Zemmour, voilà.
Autant de figures qui passent chez nous. Ce qui est intéressant sur le Rassemblement National, parce qu'il s'y est pas mal attardé, il dit ne vous fiez pas uniquement au programme, regardez les symboles et les signaux envoyés derrière les programmes. Ça, c'est un propos.
Très fort, oui.
Il parle de quoi? Il parle de l'Europe, il parle d'environnement, il parle de l'innovation de rupture.
Oui, ça va au-delà. Oui, ça va au-delà de ça, oui.
Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en gros, bon, je dirais pas qu'il renvoie. Allez, sur le plan de l'économie, on va faire simple, on va dire qu'il renvoie dos à dos deux programmes qu'il juge néfastes par rapport à ce qu'est la réalité de l'économie française et par rapport à la politique dont aurait besoin l'économie française.
Et qui a
française.
Été suivie.
Voilà, donc ça, il dit sur le plan économique, bon. Après, effectivement, on retrouve un peu dans ce qu'il dit notre opposition chèque en bois, chèque en blanc. C'est-à-dire, il dit, le vrai saut dans l'inconnu, c'est quand même le Rassemblement National. C'est un saut dans l'inconnu par rapport à ce qui va se passer, notamment dans les discussions avec l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir finalement un RN docile à la Mélanie ou un RN frexiteur? Ça, c'est un premier point. Et puis, enfin, pour terminer, là où il va encore plus loin, c'est qu'il dit il y a encore au Rassemblement National, effectivement, des tentations qu'on ne voit pas se manifester aujourd'hui, mais qui sont des tentations autoritaires. Et là, puisqu'on n'arrête pas de faire l'analogie avec Madame Meloni...
Il prend l'exemple italien.
Il prend l'exemple italien, où il dit effectivement, attention, Madame Meloni, elle est en train d'essayer de changer la constitution italienne, et qu'il est probable que le RN aura peut-être les mêmes tentations. Donc il dit,
de changer pour affaiblir le rôle du président, hein.
Alors, voilà, en Italie,
président
oui,
italien.
Parce que c'est là. Ouais. Mais qui est quand même important, le rôle du président en
Bien
Italie.
Sûr. Stabilisateur.
Lui dit stabilisateur, c'est lui qui a,
donc,
dit, voilà, lui
donc,
qui a amené Mario
donc,
Draghi.
Lui,
voilà,
il dit, ultimement, il dit le vote RN est plus dangereux que le vote.
Oui, alors surtout. Non, mais
nouveau
parce que...
Front Populaire, si vous excluez les 10-15 Gugus
ouais.
qui sont anti-flics, anti-république, antisémites, etc., etc.
Mais son analogie avec le gouvernement italien, justement, ce qu'il vous expliquait, Edwige, à l'instant, c'est que. On a un système et une constitution qui sont différents en France. Et
bien
que
sûr.
Donc, il ne faut pas se leurrer, que si demain on avait une Marine Le Pen, ça ne serait pas la même chanson, justement, qu'une Giorgia Meloni, parce que le président, ou la présidente en l'occurrence en France, a plus de pouvoir.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, elle, ce qu'elle dit, enfin lui, pardon, ce qu'il dit sur elle, c'est que il faut toujours se méfier parce qu'ils ont un côté comme Marine Le Pen là, qu'on voit tout sourire, ou Jordan Bardella, qu'on voit toujours impeccable, jeune premier, etc. Mais c'est que derrière, ils ont quand même une volonté extrêmement forte d'avancer leur pion. Ils savent très bien où ils veulent aller, et alors que vous, vous n'en êtes pas forcément conscient,
oui,
et que vous laissez un peu berner. Donc c'est là où il donnait cet exemple italien en disant là ils avancent leur pion, donc c'est pour supprimer le pouvoir du président.
Et Philippe Aguillon l'a rappelé, la France ne peut être forte et n'est forte que au sein de l'Union européenne. Et clairement,
ça, c'est le deuxième point, c'est
le vote RN nous éloignerait évidemment de l'Union européenne.
Oui, mais pour le coup, le vote Nouveau Front Populaire
aussi,
si vous voulez, il y a deux. Là, pour le coup, il y a une vraie ligne de fracture. Il y a ceux qui considèrent que l'Europe c'est le problème, et on peut renvoyer là pour le coup dos à dos le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, et ceux qui considèrent plutôt que l'Europe c'est la solution. Et ça, c'est le clan macroniste.
Ceci dit, Jordan Bardella a mis de l'eau dans son vin sur le sujet européen, parce que lui, il dit mais attendez, il n'est plus du tout question de Frexit. On va simplement aller à Bruxelles pour négocier justement les
22 milliards,
ouais. Voilà, et faire en sorte que la France demande une exemption et paye un peu moins.
Une question de Frexit, effectivement, mais jusqu'où ira la capacité du RN à parler et à dialoguer avec l'Europe, ça on n'en sait pas beaucoup plus. Comme encore mieux, François europhobe
sur le programme du Nouveau Front Populaire, la politique de la demande, entre guillemets, le partage de la valeur, il dit oui, mais attention, on a besoin de créer de la richesse, on ne peut pas consommer de la richesse qu'on n'a pas. Donc ça... Oui. Il me dit ça, c'est les fondamentaux de l'économie.
Oui, mais vous lui avez rappelé justement que, pour le coup, le programme d'extrême droite était plus pro-business et avait une politique de l'offre un peu plus poussée qu'à l'extrême gauche de l'échiquier.
Voilà pour Philippe Aguillon, qui était donc à votre micro il y a quelques instants.
Oui, alors du côté des marchés, eh bien eux, en tout cas, ont bien digéré ce lendemain de premier tour, puisque le CAC 40 a récupéré ce soir 1%. Alors lui qui avait perdu, vous en rappelez, 6% le mois dernier. Alors qu'est-ce qui a bien pu rassurer les marchés?
Une bonne question. Bon, on va la poser à Thibaut Prébet, qui est avec nous par Visio, directeur général adjoint de la financière à Arbevel. Bonsoir Thibaut, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir,
en quelques instants. Alors, on entendait beaucoup de commentaires aujourd'hui pour dire, finalement, les marchés ont acheté le moins mauvais des scénarios encore sur la table, à savoir une majorité relative pour le Rassemblement National. Donc en gros, on a des marchés qui se satisferaient d'un Parlement complètement bloqué. C'est comme ça que vous le voyez, vous ?
Oui, absolument. Le mouvement a été violent, parce que par exemple, si on regarde du côté des petites valeurs qui avaient été particulièrement sanctionnées, baissant quasiment de 15% sur un mois, le CAC Small reprend 4% aujourd'hui. Il faut avoir en tête qu'on est dans des mondes où il y a des réformes tout le temps. Il y a une sorte d'hyperactivité législative. Et l'idée qu'il pourrait ne rien se passer pendant 2-3 années est quelque chose qui n'est pas un scénario négatif. C'est plus un scénario de stabilité. Et donc, cette idée de blocage est quelque chose qui ne fait pas du tout peur. Et les précédents qu'il y a pu y avoir dans de nombreux pays ne font pas du tout peur au marché, presque à contrario. Donc, cette idée qu'on avait des hypothèses potentiellement très inquiétantes et que du sens du marché... un blocage relatif n'est pas un scénario négatif, est aujourd'hui quelque chose qui ressort assez clairement les réactions à ce premier
tour.
Oui,
alors là, évidemment, vous pensez à la Belgique qui a fonctionné plus de 500 jours sans gouvernement en place, en effet, et c'est vrai que les résultats économiques étaient plutôt positifs. Mais ceci dit, est-ce que le parallèle avec la France est juste, d'après vous? Et est-ce que vous dites aussi que finalement, un gouvernement de coalition qui ne pourrait rien mettre en place, ça voudrait dire pas de nouvelles mesures qui viendraient chambouler justement le terrain de jeu économique?
Disons qu'aujourd'hui, les marchés considèrent, et je ne rentrerai pas dans le jeu politique de savoir si c'est vrai ou pas, que la France a gagné en attractivité ces dernières années en Europe, et par conséquent, quelque part, on resterait là, ce ne serait pas si mal. Et en réalité, effectivement, dans une situation économique où on est revenu à la situation 2010-2018, c'est-à-dire une économie qui a un potentiel assez limité, qui est assez terne, mais qui fonctionne malgré tout correctement avec malgré tout trop de dépenses, on a un peu le sentiment d'être revenu à la situation ancienne, qui n'a pas un besoin de modification imminent, sauf si une nouvelle crise nous tombait dessus. Et donc l'idée qu'à ce moment-là, les choses puissent ne pas beaucoup bouger, est en tout cas quelque chose qui ne préoccupe pas. Je vous rappelle que sans rentrer dans des considérations morales, les indices essaient d'imaginer quand même les résultats futurs des sociétés. Donc évidemment, particulièrement, les modifications de fiscalité ou du coût du travail sont des choses qui peuvent créer des réactions qui sont importantes. Effectivement, là, les perspectives de modification d'ampleur plus faible et donc avec moins de risques de rupture sont des choses qui satisfont le marché assez clairement. Attention, il y a eu quand même des baisses très fortes violente pendant que le marché américain montait. Donc une hirondelle fait pas le printemps, c'est une journée d'amélioration, il en faudra plus. Mais avec en plus tous les désistements qui s'amoncellent avec une grande vitesse, le sentiment qu'il y a des scénarios possibles de majorité absolue, avant tout à gauche et puis évidemment, pourquoi pas au RN, sont un scénario que le marché considère comme en train de disparaître, en tout cas progressivement.
Et c'est ce qui rassure un petit peu ce soir les marchés, même s'il faut rappeler que de 2,6% l'ouverture, le CAC ne gagne qu'un pour cent, que ça reste tendu sur le marché obligataire. On a un 10 ans qui reste à 3,34.
Mais comment vous voyez la suite, Thibault, comment vous voyez la suite donc après le deuxième tour? Est-ce que c'est... Est-ce que, à supposer que ça soit le Rassemblement National, est-ce que vous dites que les marchés, finalement, vont se dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière sur le plan économique? Comment est-ce que vous voyez les choses?
En fait, je pense que les marchés, ils sont intéressés par le type de majorité et la capacité à passer des réformes. Le Rassemblement National a retiré de nombreux éléments de son programme depuis quelques semaines, au point que d'un point de vue économique, il n'en reste pas beaucoup. Mm-hmm. S'il n'y a plus beaucoup de mesures, il y aura probablement pas une énorme inquiétude. Si vous prenez justement l'exemple que vous citiez de Madame Meloni, il faut avoir en tête que depuis son élection, les marchés de grande capitalisation ou de petite capitalisation italienne ont fait deux fois la performance des Françaises. Donc, après un stress préalable, une fois que ça se réalise, s'il n'y a pas une rupture forte dans la politique économique qui était préalable, il y a peu de chances que le marché soit affolé dans un monde où, de toute façon, il y a toujours énormément d'élections et où les programmes économiques actuellement en vigueur dans nos pays ne sont pas, vis-à-vis de l'extérieur, des programmes de rupture majeure. Donc, le sujet, ce serait éventuellement une grande majorité absolue forte qui pourrait créer des ruptures économiques importantes. Et là, ce serait évidemment une situation où on naviguerait à vue, qui n'est pas quelque chose que le marché apprécie. Si on est dans des choses qui sont beaucoup moins claires et qui demandent de toute façon une alliance avec des pays, avec des partis, on va dire, qui sont décrits comme dans l'axe républicain, il est assez raisonnable de penser que le marché n'a pas tellement de raison de s'affoler. Après, on est dans un marché qui revenait sur des considérations d'OPA, sur des considérations d'attractivité de la France. Tout ce qui est en train de se passer est quand même pas merveilleux.
Thibault, est-ce qu'on peut s'offrir deux ans, voire trois ans de statu quo? Parce que je vous entends dire, finalement, le RN avec une majorité relative dans l'esprit des marchés, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas forcément plus de mal. Est-ce qu'on peut s'offrir deux, trois ans encore de statu quo vu de la situation des finances publiques? On disait tout à l'heure, les marchés effectivement sont prêts à acheter ce scénario. Marché obligataire, ça se tend. On voit un taux à 10 ans français à 3,34 qui peut encore aller grappiller un petit peu de marge. Est-ce que l'inquiétude n'est pas là non plus finalement?
Les écarts avec l'Allemagne ne sont pas très élevés. Aujourd'hui, c'est vraiment les taux allemands qui montent pas mal suite à ce soulagement.
Ça se détend en tout cas, oui, c'est vrai.
Voilà, c'est-à-dire que les taux allemands montent, donc l'écart avec l'Allemagne a plutôt baissé à cause de la hausse des taux allemands. Mais on n'est pas sur des niveaux de taux qui sont très élevés en France. Il n'y a pas à ce stade d'inquiétude massive. Je vous rappelle que les problèmes de déficit et de dette publique sont des problèmes qui, dans certains pays, on pense au Japon, mais on pourrait parler des États-Unis, créent quand même qu'un haussement de sourcils. Et globalement, tout le monde s'en fout un peu. Vous voyez bien que depuis l'élection de Mme Meloni, on peut pas dire que la dette italienne, qui a atteint pourtant des niveaux assez stratosphériques, affole les foules. Donc malheureusement, ce sujet de la dette privée revient toujours un peu comme un épouvantail. L'idée que ça déclenche des sources violentes, on en est vraiment pas prêt. Là, on a à ce stade une réaction qui est limitée. Ouais. Et on pourrait tout aussi bien dire qu'il y avait une certaine complaisance vis-à-vis de la France par rapport à l'Allemagne, dont la dette part au PIB est quasiment de moitié. Plutôt que de dire qu'aujourd'hui on attend des niveaux d'affolement, est-ce que l'anomalie elle est aujourd'hui ou est-ce qu'elle était hier? C'est un débat qu'on peut avoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun sentiment de panique sur la dette obligataire
française.
Mais alors
juste, si on vous comprend bien, c'est que la seule chose qui pourrait faire vaciller les marchés, ça serait une majorité absolue de l'extrême gauche.
De l'extrême gauche, je crois qu'avec les retraits de candidats qu'ils ont déjà fait, je ne suis même pas sûr que ce soit encore mathématiquement possible.
En tout cas, que ça le soit ou pas, ça serait le seul cas possible, possiblement, qui pourrait faire basculer.
L'extrême droite du Rassemblement National, c'est le seul qui peut encore avoir une majorité absolue.
Oui, mais vous dites que le programme du RN, finalement, qui a mis un peu d'eau dans son vin, ne fait plus vraiment peur au marché. C'est ce qu'on comprend.
Alors si quand même, parce que dans le cas d'une majorité relative, il faut convaincre d'autres partis, donc on est obligé de rester dans une certaine forme de raisonnable si on veut essayer de proposer quelque chose. Dans le cas d'une majorité absolue, le problème c'est que vous n'êtes pas tenu de rester sur votre programme. Donc aujourd'hui, l'incertitude d'une majorité absolue de n'importe quel parti, entre guillemets, auquel le marché n'accorde pas une sorte de tampon républicain raisonnable, après vous savez ce qui a été dit, vous savez pas ce qui peut être fait. Donc je pense quand même qu'un scénario de majorité absolue du Rassemblement National créerait une inquiétude à minima temporaire, et après il faudra voir ce qui est fait. Il y a peu de raisons de penser que c'est un scénario qui est favorable au marché. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de bon scénario, dans le sens où on vient quand même de voir des baisses très importantes et des sous-performances très importantes de la France qui ne se réduisent qu'au mollement aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les scénarios très négatifs reculent un peu et c'est globalement des scénarios de majorité absolue.
Ok. Bon, voilà où nous en sommes, comme on dit. Merci beaucoup, Thibault. Alors, question, vous me confirmez qu'il y a une grosse levée de fonds de l'Agence France Trésor jeudi ouais. 4. Hein. Alors, ça vient se nicher en plein milieu de l'entre-deux tours. Je crois qu'on va lever quelques milliards à échéance 9, 10, 29 ans, 42 ans. Donc là, effectivement, ça fait partie de ces tests qu'il faut regarder en ce moment, Thibault, quand même. Hein.
C'est, non, mais ça ne se passera rien là-dessus.
Ça se passera rien.
Pas dans une zone d'inquiétude.
Juste un point. Parce
vous affolez pas là-dessus. Puis rappelez-vous aussi que la France est un pays qui a beaucoup d'épargne disponible.
C'est vrai.
Donc on n'est pas dans un pays qui est très dépendant tout le temps uniquement de l'étranger. Oui. La situation de la dette française n'intéresse pas les gens. 195% des clients qu'on a des investisseurs, ça se place que sur les actions, voire leur fiscalité, mais l'obligataire, ça reste un sujet technique qui aujourd'hui est loin d'être un sujet d'affolement général. C'est plutôt ce qu'on appelle un repricing, c'est-à-dire une remise à un niveau
sans
plus
parler,
cohérent.
Sans parler d'affolement, un instant, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est le fait qu'avant, la dette française était sursouscrite au moins 5-6 fois. Elle ne l'est plus que 2 à 2 fois et demi. Donc il y a un petit indicateur quand même.
Oui, c'est sûr, mais après, c'est certain que aussi il y a beaucoup d'investisseurs qui se placent, parfois de manière spéculative. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que les gens ont envie de faire. Mais comme vous le dites vous-même, deux fois et demi, il faut l'avoir une fois. Donc, ça a aucune chance de créer un mouvement fort. Il y a des périodes aussi aux États-Unis où on est très sursouscrit, d'autres où on n'est même pas sursouscrit du tout. Ça fait partie des technicités de ces marchés. Je crois vraiment que c'est avant les résultats de ce second tour, il y aura pas de mouvements qui sont capables de remettre en question. Je pense qu'on est assez loin de ces zones de stress extrême. Ils sont pas impossibles, mais sans majorité absolue dimanche et avant cela, il y a quand même très peu de chances de voir des débordements importants sur le marché de l'obligataire. C'est vraiment pas la zone d'inquiétude forte à ce stade.
Bien, merci beaucoup Thibault. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir pour nous aiguiller un petit peu sur l'état d'esprit de ces marchés, effectivement, qui ont repris quelques couleurs, 1% sur le CAC 40, toujours un peu de tension. Enfin, ça ne bouge pas en tout cas trop pour l'instant sur le 10 ans français. Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière à Bevel. Merci Thibault d'avoir été avec nous. À très vite, avec plaisir sur BFM Business. Et pendant ce temps, on le disait, les petits arrangements ont débuté en vue d'obtenir quelques désistements. Et ça a déjà fait une première victime, tout ça, évidemment, André.
Oui, évidemment. La première victime, donc, c'est la réforme de l'assurance chômage. Bonsoir, Caroline Morisseau.
Bonsoir.
Alors, expliquez-nous, Gabriel Attal a annoncé hier soir qu'elle était suspendue.
C'est ça, elle n'est pas définitivement enterrée, mais il a décidé de faire marche arrière, après avoir affirmé haut et fort, avant le premier tour des élections législatives, qu'il tenait à cette réforme, qu'elle serait donc maintenue et que le décret serait bien publié pour la mettre en œuvre. Il a finalement décidé de la mettre sur pause, et donc toutes les mesures qui avaient été annoncées, qui devaient entrer en vigueur le 1er décembre prochain, la baisse de la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois, le durcissement des conditions d'ouverture des droits, et bien toutes ces mesures sont pour l'instant mises entre parenthèses, sur pause. Un décret a bien été publié, mais il consiste uniquement à prolonger les règles actuelles pour éviter un vide juridique, puisque le décret sur les règles tombait hier soir. Donc pour prolonger les règles actuelles, un décret a bien été publié, mais uniquement pour prolonger les règles actuelles. Ce décret, il court maintenant jusqu'au 31 juillet prochain, le temps que la situation politique se clarifie. Et selon Gabriel Attal, enfin dans l'entourage de Matignon, on nous dit que ça va permettre de faire des aménagements avec la majorité républicaine. Donc l'objectif est clair. L'idée, c'est vraiment de donner des gages à la gauche, aux partis, aux candidats de gauche pour essayer de marquer des points lors du deuxième tour.
Oui, alors sauf que je rappelle quand même que le nouveau Front populaire a non seulement annoncé en effet qu'il voulait abroger la dernière réforme, mais qu'il voulait aussi abroger celle de 2019 et de 2022, donc on ne voit pas très bien quels aménagements seraient possibles.
Avec le nouveau Front populaire, sûrement pas. Le Rassemblement national a aussi prévu de toute façon d'abroger cette réforme, donc il y a quand même toutes les chances, effectivement, vous le dites, pour que cette réforme soit finalement enterrée. Après, ce n'est pas totalement réglé. La question va se reposer quand même le 31 juillet prochain, quand à nouveau on va se retrouver face à un vide juridique et qu'il n'y aura plus de règles pour le lendemain pour les chômeurs qui doivent être indemnisés.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce fait qu'on se serve de l'assurance chômage pour, en guise de monnaie d'échange, Emmanuel?
Bon, c'est vraiment temporaire.
Là, c'est de l'épicerie en uniforme.
Histoire de ne pas froisser éventuellement les candidats de gauche qui pourraient faire alliance avec les macronistes, mais après effectivement.
Mais attendez, c'est une réforme qu'ils ont soutenue mordicus pendant des mois. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire en 3 jours? Est-ce que c'est la réforme des retraites?
Non, mais de toute façon, je pense que c'est uniquement une question de jours. Cette réforme, elle passera. Alors à moins que, enfin, elle passera, sauf si.
Mais c'est pas sûr, Manu.
Sauf s'il y a effectivement une majorité dans laquelle il va falloir se mettre d'accord. Mais à ce moment-là, ça reculera. On reculera que d'un cran. En fait, c'est ça. En gros, on a fait 5 rangs depuis 2017. Il y a eu 5 réformes successives. En gros, le Rassemblement National dit on annule la dernière, mais manifestement, ils n'iront pas au-delà. Alors que, effectivement, le nouveau Front Populaire, lui, veut supprimer toutes les réformes qui ont été faites depuis 2017. Donc, effectivement, on n'en reviendrait pas au même point. Mais après, ça rejoint ce que disait Thibault, c'est-à-dire le risque à moyen terme, c'est quand même que la France, qui avait acquis auprès des investisseurs internationaux, des institutions internationales, des marchés financiers, une sorte de, un peu de nouvelle crédibilité, où on se disait, tiens, la France a changé, etc. À la limite, c'est vrai que si on en reste, si on ne perdait pas de terrain, si on ne reculait pas dans cette quête de crédibilité, ce serait pas mal. Après, si effectivement on retourne vraiment en arrière, et ben cette idée que finalement la France ne change pas et pourrait s'ancrer, et à court et à moyen terme, ça nous coûtera cher.
Edwige, le prochain grand rendez-vous au-delà de l'assurance chômage, ça sera évidemment la réforme des retraites, pour voir de qu'est-ce qui se passe et rapidement, ceux qui arrivent au pouvoir vont revenir, si c'est le Rassemblement National à 60 ans pour les carrières longues, quand est-ce qu'ils vont revenir à 62 ans s'ils y reviennent, parce que le coût quand même, le coût financier à la clé est quand même énorme, et ça sera à mon avis un indicateur très très important pour les investisseurs.
Il y a trois inquiétudes majeures chez les investisseurs. Il y a un, effectivement, qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe ?
Instabilité politique.
Voilà. Est-ce que la France va s'isoler ? Est-ce que ça va affaiblir l'Europe ? Ça, c'est le premier point. Et puis, deux points français. Le premier, c'est effectivement la perte de contrôle des finances publiques. Alors, ce qui inquiète particulièrement, c'est cette combinaison explosive du Rassemblement National entre volonté, alors même si c'est de ramener seulement à 62 ans l'âge de départ à la retraite, mais que vous combinez avec un arrêt, entre guillemets, ou un contrôle de l'immigration, dans la mesure où on sait très bien que l'équation des retraites n'est pas possible si on continue pas à avoir un apport d'immigration pour participer au financement du système de retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui inquiète particulièrement. Et puis, le risque de crise sociale aussi, qui n'est pas sous-estimé, parce que si vous avez un gouvernement Rassemblement National la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? Quels services publics vont se mettre en grève ? Qui va manifester ? Est-ce qu'il va y avoir des tensions ? Donc ça, c'est les trois inquiétudes majeures.
On parle d'une réforme qui n'était pas spécialement... Alors, on entendait Éric Chevet ce matin, le vice-président de la CPME, qui était sur BFM Business. On n'a pas le temps de l'écouter, on réécoutera dans le journal dans un instant. Mais qui nous disait, finalement, on a sondé nos trous. Bon, bah, c'est une réforme qui, pour beaucoup des petits patrons que nous représentons, était celle de trop.
C'est pas très
finalement.
Non, c'est pas très grave. Sauf que quand même, malgré ce durcissement qui devait avoir lieu, donc on tombait à 15 mois d'indemnisation au lieu de 24 mois, Caroline, c'est ça ?
Ouais,
On se rapprochait de la moyenne européenne, mais on restait un des régimes les plus généreux.
Ah non, pas du tout.
La moyenne en Europe, c'est 12 mois.
On était un régime très généreux avant cette réforme, mais une fois cette réforme mise en œuvre, si elle avait dû être mise en œuvre, on passait à un régime qui était finalement plutôt moins généreux que la plupart des pays européens. C'est pour ça que tous les syndicats ont dit que c'était une réforme extrêmement violente.
Attendez, parce que sur la durée d'indemnisation.
On tombait à 18 mois, enfin de 18 mois européenne, à 15 mois.
Oui, 12 mois.
La moyenne européenne, en Allemagne, c'est 12 mois. La moyenne européenne, c'est pas 12 mois. Et en plus, il y avait une nouvelle dose de contracyclicité. Vous savez, les règles auraient été à nouveau durcies si jamais on tombait sous les 6,5% de chômage. Donc du coup, là, on serait passé à 12 mois également. Et puis après, on a des régimes qui sont plus ou moins avantageux en fonction des âges. Et il faut regarder le package global, en fait, des pays européens par rapport à la France. Donc non, globalement, avec cette réforme de l'assurance chômage, on n'était plus du tout généreux. On passait d'un excès à l'autre.
Edwige.
Caroline a raison. Un point, ça aurait été complètement absurde et impossible d'imaginer qu'il passe là, vu la situation politique dans laquelle se trouve la majorité, ou du moins l'ex-majorité, de faire passer ce décret alors qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Je sais bien, ça ne se joue pas à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est un décret, ce qui était étonnant, c'était de vouloir à tout prix faire passer ce décret, alors que le gouvernement était censé gérer les affaires courantes. Quoi.
Absurde, mais le timing n'était pas bon.
Non.
Voilà pour cette réforme, suspendue donc. Il faut bien le préciser, elle est suspendue à ce stade.
Avec un point d'interrogation, ça me paraît important.
Avec un gros point d'interrogation, quand même, effectivement.
Allez, 18h57, c'est fini pour cette première partie des experts. Merci à tous les trois, Caroline Morisseau, Emmanuel Luchy, Predvige. On se retrouve demain, 18h10.
Oui, la patronne de France Digital, on essaiera de parler un peu. Bah, vous vous souvenez, un truc très là, la French Tech, vous voyez ce que c'est là? On se demande où est-ce que ça a disparu, parce que ça paraît extrêmement loin tout ça, comme quoi l'actualité va vite.
Ça n'a pas été évoqué beaucoup dans les débats le soir à la télévision.
Non, c'est sûr.
Demain, donc France Digital, 18h10, 18h58, on revient dans un instant, on est encore là pendant une heure.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good evening business.
Allez, les 19h sur BFM Business, on est ensemble jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Bon, restez avec nous, le match n'est pas terrible, donc vous êtes beaucoup mieux ici où il se passe des choses, hein, évidemment, sur BFM Business. Il se passe toujours beaucoup de choses. Ouais. Et on a ce soir dans l'actualité des marchés qui apparemment ont trouvé quelques satisfactions dans les résultats des élections législatives hier. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir d'une telle sérénité, enfin d'une relative sérénité? On va voir ça avec Étienne Braque dans un instant. Et puis on va parler de tout ça, bien sûr, avec nos experts qui seront là dans un quart d'heure.
Oui, avec eux, on reparlera aussi du plus long terme, c'est-à-dire la possible majorité, même relative, pour le Rassemblement national. Alors, avec quelles conséquences pour l'économie française? On est en train de répondre à cette question. Puis, on parlera aussi de la réforme de l'assurance chômage qui vient d'être suspendue dans l'espoir d'obtenir le retrait de quelques candidats du Front populaire. Et puis, on se posera la question de savoir si la situation en France peut encore fragiliser l'Europe ou pas. Les réactions depuis ce matin laissent transparaître beaucoup d'inquiétudes.
Ça fait beaucoup de questions. Qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler de tout ça? On sera avec l'économie. Nathalie Janson de Neoma Business School, Jean-Thomas Lesseur pour l'Institut Thomas More et puis Alexandre Malafaille pour le think tank Sinopia. On va beaucoup brainstormer ce soir.
Oui, ça sera un débat animé au programme.
Absolument.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc, bah oui, on va prendre quelques nouvelles des marchés parce que c'était une question, effectivement, ce week-end. Comment allait-il réagir ce lundi? Bonsoir, Étienne Braque.
Bonsoir, Guillaume.
Donc, ça s'est bien passé à Paris. On a ouvert en hausse de 2,6%. On gagne qu'un pour cent, mais apparemment, on est rassuré. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir d'une telle sérénité ce soir, Étienne?
Bah, depuis un peu plus de 15 jours, les marchés sont angoissés à l'idée de voir le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national arriver à Matignon. La semaine dernière, on avait des sondages qui nous donnaient un Rassemblement national à 37-38%. Bon, finalement, ils arrivent à 34%. Et la plupart des économistes, des analystes disent, bon, il y a assez peu de chances que le Rassemblement national arrive à Matignon et arrive à avoir une majorité absolue dimanche. Bon, c'est des scénarios vraiment qui... Il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Rien n'est fait. Vous l'avez dit, finalement, le CAC 40 gagne 1% ce soir à la clôture. Intéressant également de regarder l'euro-dollar, bon, qui ne bouge pas trop. Et puis surtout, quand vous regardez la dette française à 10 ans. Oui. Alors, l'Allemagne aussi a monté, il faut le dire. Mais la dette française à 10 ans, elle remonte à 3,35, ce qui n'avait pas été vu depuis novembre dernier. Donc, il y a une inquiétude qui est toujours là. Le spread, l'écart entre la France et l'Allemagne se stabilise à 73-74 points de base. Et puis surtout, ça sera une semaine très importante pour la dette française, avec jeudi l'agence France Trésor qui va émettre entre 8 et 10 milliards de dettes à long terme, à échéance 10 ans.
Très belle, nous dit il n'y aura pas de souci jeudi. Voilà,
non, il n'y aura pas de problème. La demande sera toujours là. Oui, oui. L'enjeu, c'est de voir quel sera le taux de refinancement de la France. Et là, ça sera vraiment intéressant de voir quel est le prix donné au stress actuel sur les marchés, sur la dette française, avant, bien sûr, le résultat de dimanche. Il y aura encore une nouvelle fois beaucoup de volatilité, que ce soit sur le marché action, mais aussi sur l'obligataire.
Bon, on va surveiller cette belle semaine sur les marchés. Enfin, je dis cette belle semaine, elle sera intéressante à surveiller. En tout cas, merci Étienne, on revient avec vous dans quelques minutes pour voir ce qui se passe du côté de Wall Street pendant ce temps. Ce qui soulage les marchés notamment, on en parlait, ce sont entre autres ces discussions qui ont débuté pour envisager certains désistements. Et vous savez donc que pour faciliter un petit peu les choses, Gabriel Attal a annoncé hier soir la suspension, tout simplement, de la réforme de l'assurance chômage. Caroline Morisseau.
Marche arrière toute, après avoir affirmé haut et fort que la réforme serait maintenue, Gabriel Attal a finalement décidé de la mettre sur pause. Toutes les mesures qui devaient entrer en vigueur le 1er décembre prochain, comme la baisse de la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans, ou encore le durcissement des conditions d'ouverture des droits pour être indemnisé, sont donc mises entre parenthèses. Un décret va bien être publié dès aujourd'hui, mais uniquement pour prolonger les règles actuelles jusqu'au 31 juillet prochain, le temps que la situation politique politique se clarifie. Cette réforme pourrait ainsi faire l'objet d'aménagements, de discussions entre forces républicaines. Il s'agit du premier acte de Gabriel Attal dans l'esprit de future majorité de projet, explique-t-on à Matignon. L'objectif est clair, donner des gages aux partis et aux électeurs de gauche afin de tenter de marquer des points lors du deuxième tour des élections législatives le week-end prochain. Cette décision n'est toutefois pas partagée par tous au sein de l'ancienne majorité. Ce matin, Bruno Le Maire a regretté ce choix et insiste sur la nécessité de faire cette réforme.
Voilà donc réforme suspendue. Et alors écoutez ce que nous disait ce matin le vice-président de la CPME qui était sur BFM Business. Il dit c'est pas grave, on a sondé nos adhérents. Et finalement pour beaucoup d'entre eux, c'était peut-être la réforme de trop celle-là. Écoutez ce que disait Éric Chevet ce matin.
À la CPME, nous avons fait une enquête la semaine dernière auprès de nos adhérents et plus de 1000 de nos adhérents ont répondu et nous avions glissé une question sur l'assurance chômage et à notre grande surprise, 50% des chefs d'entreprise qui ont répondu à cette enquête s'interrogeaient sur cette réforme supplémentaire, ce nouveau décret qui était en préparation. Et donc nous analysons ça quand même comme étant le fait qu'on est au bout quand même d'un système en matière d'assurance chômage, d'un système de réforme paramétrique si je puis dire. Là, nous sommes devant nous, devant, de notre point de vue, la nécessité de remettre à plat complètement le dispositif et de repenser de façon systémique la question de la protection sociale, emploi-formation en France.
Et pour ça, par contre, il faudra un gouvernement
non,
et
pas
il faudra
forcément.
Prendre des décisions.
Si les partenaires sociaux s'en saisissent, ouais, nous pourrions le faire avancer, surtout dans un univers politique incertain. Mmh. Et là, c'est un appel que nous, CPME, nous envoyons aux partenaires sociaux.
Voilà l'appel de la CPME ce matin sur BFM Business. Nous sommes le 1er juillet, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui prend la présidence de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Premier ministre hongrois qui a promis, je cite, d'agir avec impartialité, je cite, durant cette période. 19h07 dans l'actualité des entreprises. Bruxelles qui vise cette fois Meta. Bruxelles estime que payer pour avoir accès à des contenus sans pub, c'est contraire aux réglementations européennes. Bref, Meta va devoir rectifier le tir très très vite. Frédéric Simotel.
Oui, doit s'entendre. Et puis surtout, ce qu'il faut regarder, c'est prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On est entre le coup de pression sur la big tech et le coup de communication, parce que on s'explique. Vous savez, ces réglementations européennes, le DMA, le DSA, sont entrées en vigueur en novembre 2022. Et puis elles ont été applicables beaucoup plus tard. Donc il y a un an pour le DMA et il y a quelques mois pour le DSA. Alors certes, la Commission européenne a laissé plusieurs mois aux plateformes pour qu'elles s'organisent, pour être conformes à ces réglementations. Mais aujourd'hui, la fête est finie concernant le DMA, c'était il y a quelques jours. Apple a été averti parce que justement, il n'appliquait pas certaines pratiques concurrentielles en interdisant par exemple aux développeurs d'applications de rediriger les utilisateurs vers des offres extérieures à son propre App Store. Et puis là, dans le collimateur, c'est Meta avec Facebook, Instagram qui ne veut pas laisser le choix aux utilisateurs. Si vous voulez pas de pub, il faut payer. Sinon, ça reste comme ça. Mais justement, c'est ce qui ne plaît pas à la Commission européenne. Et là, alors ils ont tous deux quelques mois, que ce soit Apple ou Meta, ils ont quelques mois pour se mettre en ordre de marche. Sinon, la sanction peut être lourde, des 10% du chiffre d'affaires. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faut voir dans tout ça? Il y a deux raisons. La première, c'est l'Union européenne a enfin tiré les leçons de toutes ces années passées à se faire avoir. Donc là, aujourd'hui, elle veut plus se faire avoir par la domination des big tech, surtout qu'il y a l'IA qui arrive, donc au risque de passer pour un régulateur parfois trop contraignant par rapport aux innovations. Eh bien, la Commission européenne veut jouer sa partition et donner une chance aux acteurs européens, surtout que je vous l'ai dit, ce profil, le LIA Act, le Data Act, donc là, et on sait que les gens américains sont très présents. L'autre raison, alors ça tient plus de la communication politique. Suite aux élections européennes, la Commission est en train de préparer son président, ses vice-présidents, ses commissaires à la concurrence et tout ça. Et là, montrer qu'on a un peu de caractère et qu'on ne manque pas de cran face au big tech, et bien c'est une façon de montrer que voilà, on peut être l'homme ou la femme de la situation. Et ça aussi, ça joue aussi dans ces décisions.
Voilà, Frédéric Simotel avec nous tout à l'heure sur BFM Business. En France, premier semestre en légère hausse pour le marché auto, quasiment 915 000 ventes, quasiment 3% de plus qu'il y a un an. Ce que nous confirme aussi d'autres chiffres, cette fois du cabinet Alix Partners, c'est que les ventes d'électriques sont en train de marquer le pas. C'est l'hybride, en fait, qui tire le marché désormais. Justine Vassogne. Justine Vassogne, qu'on écoutera un peu plus tard sur BFM Business. Vente d'hybride qui tire le marché. On vous racontera ça, bien sûr, tout au long de la soirée sur BFM Business. Puis un dernier mot avant d'aller sur les marchés. Boeing, c'est officiel, va racheter une partie de son gros sous-traitant Spirit Aerosystems, dont il s'était séparé il y a 20 ans. Une partie sera néanmoins reprise par Airbus. Les deux constructeurs l'ont confirmé aujourd'hui, 19h10. On retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui récupère un peu plus d'1% à la clôture, 7561 points. Rebonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça se passe à Wall Street pendant
Bien, c'est du vert également, avec trois indices américains qui poursuivent leur rallye. Hein, souvenez-vous, vendredi soir, le Nasdaq a gagné 18% l'espace d'un semestre. Et bien ce soir, le Nasdaq continue de surperformer, plus 0,6%, 17 838 points. Le S&P 500 qui gagne 0,2% à la porte des 5500 points, quand le Dow Jones grappille également 0,2%. Dow Jones porté par notamment Boeing qui gagne quasiment 3% ce soir avec, comme vous venez de le souligner, le rachat de l'un de ses sous-traitants, Spirit Aero Systems. Et puis à noter que vous avez des indicateurs aux États-Unis qui montrent que ça ralentit un petit peu sur le front manufacturier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la Fed hein, qui cherche à calmer l'économie depuis des mois maintenant. Ça sera une semaine également importante avec l'emploi américain qui va être publié vendredi après-midi avec un taux de chômage qui devrait être stable aux alentours des 4%. Donc tout ça va bien sûr animer la séance tout au long de la semaine. En attendant, vous avez trois indices américains qui sont quasiment sur des plus hauts historiques, avec notamment un indice Nasdaq qui poursuit son rebond après déjà un gain de 18% depuis le début de l'année. Un dernier mot sur Nvidia qui fait l'actualité aujourd'hui.
Je me disais aussi.
Progresse encore, plus 0,3%, malgré quand même l'autorité de la concurrence aux États-Unis qui ouvre une enquête par rapport au marché des puces. Hein. Vous savez qu'ils imposent leur prix d'une façon spectaculaire. Hein. Une carte Nvidia, c'est plus de 40 000 dollars. Bon, il y a peut-être un sujet pour les autorités américaines qui ouvrent une enquête là-dessus. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, ça n'enraye pas la tendance haussière de ce titre.
Bon, c'est toujours Nvidia, la première capitalisation mondiale.
Ah non, ça a changé. Maintenant, ils sont troisième. Ils sont même repassés tout à l'heure sur les 3 000 milliards de valorisation boursière avec Microsoft qui est repassé devant, suivi d'Apple et donc de Nvidia. Ça bouge très vite.
C'est une bataille au jour le jour, c'est ça que j'allais dire, effectivement. Merci beaucoup Étienne. Étienne Brac avec nous tous les soirs pour décrypter l'actualité des marchés sur BFM Business. Il est 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, avec nos experts. Ben évidemment, on va bien sûr largement disséquer ces résultats du premier tour des législatives. Conséquences politiques, conséquences institutionnelles, la réaction des marchés. Et puis, regardez un petit peu comment on regarde tout ça du côté européen. Les réactions et déclarations du jour n'étaient pas vraiment enthousiasmantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on est reparti. Les experts de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous. Et puis nos experts qui sont là. Nathalie Janson est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir
bienvenue,
Guillaume, bonsoir Audrey.
À Neoma Business School, Alexandre Malafaye est avec nous. Bonsoir Alexandre, bienvenue, président fondateur de Sinopia. Et puis Jean-Thomas Lesueur, bonsoir Jean-Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Directeur général de l'Institut Thomas More. Merci à tous les trois d'être venus et d'avoir zappé le match de l'équipe de France, qui n'est pas très enthousiasmant. Vous êtes aussi bien ici, je vais vous dire.
Oui, mieux même.
Mais mieux. Ici, il se passe toujours des choses, contrairement à d'autres endroits. Bref. On va commencer avec ce qui est pour nous depuis 15 jours, 3 semaines, notre petite météo marine à nous, si vous voulez. Si on regarde l'état d'avancement du taux à 10 ans français, voyez, nous en sommes. Nous sommes à 3,30 ce soir, ça veut dire que ça ne se détend pas des masses. Par contre, ça s'est mieux passé sur les marchés actions parce qu'on a un CAC 40 qui a repris quelques coups, l'or a gagné 1% ce soir, finalement. C'est
oui, alors d'où la question que l'on posait tout à l'heure à Thibaut Prébé de la financière Arbevel sur BFM Business. Pourquoi le CAC 40, qui a cédé 6%, rappelez-vous, le mois dernier, a-t-il récupéré quelques couleurs aujourd'hui? Écoutez sa réponse.
Le mouvement était violent, hein, parce que par exemple, si on regarde du côté des petites valeurs qui avaient été particulièrement sanctionnées, baissant quasiment de 15% sur un mois, le CAC Small reprend 4% aujourd'hui. Il faut avoir en tête qu'on est dans un monde où il y a des réformes tout le temps. Il y a une sorte d'hyperactivité législative et l'idée qu'il pourrait ne rien se passer pendant 2-3 années est quelque chose qui n'est pas un scénario négatif, c'est plus un scénario de stabilité. Et donc cette idée de blocage est quelque chose qui ne fait pas du tout peur, et les précédents qu'il y a pu y avoir dans de nombreux pays ne font pas du tout peur au marché, presque à contrario. Donc cette idée qu'on avait des hypothèses potentiellement très inquiétantes et que du sens du marché, un blocage relatif n'est pas un scénario négatif, est aujourd'hui quelque chose qui ressort assez clairement des réactions à ce premier tour.
Non mais c'est quand même intéressant parce que ce que nous disent les marchés, c'est que finalement, si on avait un gouvernement de coalition qui serait bloqué pour voter de nouvelles lois, et bah finalement ça serait peut-être le meilleur de tous les scénarios parce que bah on n'aurait pas de nouvelles mesures qui viendraient chambouler le paysage économique. Nathalie.
C'est tout à fait ça, oui. Quand on lit la presse étrangère, elle est assez unanime depuis
hier soir. En fait, ils vous disent tous que la raison pour laquelle le taux ne s'est pas tendu, et voilà, il n'y a pas eu de tension depuis la publication des résultats hier soir, c'est parce que finalement, on préfère ne pas avoir de majorité. C'est-à-dire que le fait qu'on soit avec tant de triangulaires, en fait, c'est mieux, parce qu'en fait, ils avaient peur de ce que pouvait faire passer le RN, même si effectivement, par rapport à ce que pouvait faire passer NFP, entre les deux, ils avaient peut-être une légère préférence pour le RN, mais quand même, économiquement parlant, en tout cas, c'est comme ça qu'on interprète la reprise au niveau de la bourse et le fait que les obligations n'aient pas beaucoup bougé. C'est qu'en fait, on préfère l'inaction et donc l'impossibilité pour ces deux parties extrêmes de prendre des mesures qui ne seraient pas favorables à l'économie française.
C'est quand même une drôle de réaction, je trouve. En gros, là, c'est l'idée.
On préfère l'absence.
Ça fera peut-être pas de bien, mais enfin, ça fera pas de mal finalement. C'est quand même un calcul de court terme, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre, quand même ?
Non.
Comme si la France pouvait se le permettre, je veux dire, 2 ans, 3 ans d'inaction finalement.
Les marchés, en général, n'aiment pas trop l'inconnu. Oui. Donc c'est vrai que là, on a franchi une étape, on a levé quelques inconnus. Première inconnue positive pour les marchés, ce ne sera pas le nouveau Front Populaire, ça c'est à peu près certain. Oui. Deuxièmement, s'il y a une grande coalition, il se fera sans doute sur un espèce d'arc républicain qui n'intégrera pas évidemment le nouveau Front, enfin, le NFP, le LFI. Ça c'est plutôt également une bonne nouvelle. Après, là où c'est quand même moins clair, c'est que l'inaction dans le contexte actuel, ça va être compliqué. Dans un contexte où les marges du budget sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire proches de zéro, avec un système d'endettement qui est au maximum, des dettes qui sont considérables, et puis des attentes. Parce que, pardon, il va y avoir une attente sociale, quels que soient les arrivants à Matignon et au gouvernement, et à l'Assemblée à partir du 7 juillet, attente extrêmement forte. Et puis après, si on termine un instant sur le RN, ils ont bien sûr eu des bonnes raisons d'inquiéter l'ensemble des marchés. Cela dit, depuis un mois, ils se soignent.
Oui,
depuis un mois, ils ont envoyé plein de signaux pour dire finalement, on ne fera pas ça comme ça, finalement, ça, on va faire plus tard, puis on va quand même faire un bilan pour voir où on en est, ce qu'on peut faire. Sur les retraites, bon, finalement, 66 ans, pourquoi pas. Voilà. Et donc, tout ça a permis aussi au marché de se dire, bon, si par hasard, c'était une coalition, mais plutôt RN avec quelques alliés, bon, ce sera peut-être moins pire qu'eux. Donc voilà, il y a un chemin de lisibilité qui est un peu plus rassurant, si je puis dire, avec des scénarios qui, de toute façon, dans tous les cas de figure, sont des scénarios qui nous mettent, à mon avis, devant ce que moi j'appelle la fin du modèle, la fin d'un temps, à la fois sur le système de gouvernance et aussi sur l'action publique qui n'a plus de moyens.
Alors juste, Guillaume, vous disiez de l'inaction pendant 2 ou 3 ans. Je vous rappelle qu'on peut dissoudre l'Assemblée nationale tous les ans. Donc on n'est plus à une dissolution près. Voilà, c'est ça, exactement. Jean-Thomas, est-ce que c'est l'exemple de la Belgique qui nous rassure, qui a fonctionné 580 jours sans gouvernement, avec une croissance qui a repris ?
L'exemple de la Belgique doit-il nous rassurer ? C'est une bonne question.
quelque part, peut-être.
Sachant qu'on joue ce soir contre la Belgique. C'est le parallèle foot de la soirée.
Je pense que ça n'est pas très comparable par la taille du pays, les enjeux, le modèle institutionnel. Oui. Je vous rappelle que la Belgique est un pays fédéral, alors malade par ailleurs de ses institutions, mais fédéral. Donc en fait, l'absence d'un gouvernement fédéral est compensée, si je puis dire, par l'action des strates fédérées.
Ce qui ne serait pas le cas en France.
Nettement moins, c'est-à-dire que quand même, hélas, nous sommes dans un pays ultra centralisé. Non, je voulais quand même dire 2 choses rapidement. Ce par quoi vous avez commencé prouve quand même la forme, si ce n'est d'immoralisme, du moins d'amoralisme des marchés financiers, c'est-à-dire que...
Moi j'appelle ça du pragmatisme, enfin après...
L'amoralisme, c'est l'absence de morale, si vous voulez, mais être rassuré de l'inaction m'apparaît quand même, et pose un problème, parce que versus quand même des Français qui attendent beaucoup, et par ailleurs un gouvernement technique serait un gouvernement ultra minoritaire, sociologiquement ultra minoritaire, un gouvernement au centre. Donc je ne suis pas sûr que ce serait, d'une part, que ça se passe bien dans la rue, d'autre part, qu'il y ait cette stabilité politique que semblent appeler de leur vœu les marchés, parce que vous ne savez pas s'il ne peut pas y avoir des motions de censure. On pourrait se retrouver dans la fin de la 4ème République avec des gouvernements qui durent 4 mois. Donc il me semble quand même que le calcul politique qu'on a entendu là peut être largement discuté.
Justement, parce que c'est le scénario qui ressort, c'est le gouvernement technique, voilà, le gouvernement de techniciens. Est-ce que, enfin, je crois que les Italiens y ont eu recours à plusieurs 3 ou 4 fois quoi, dans leur histoire. Voilà.
En fait,
est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez en France? Voilà, tout ça.
C'est un scénario très possible. Le sujet n'est pas tant celui du gouvernement technique que ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire de son assise populaire et de sa représentativité. Quand vous regardez Mario Monti en Italie, ou que vous regardez, alors c'était pas le gouvernement technique, mais le gouvernement d'alliance, les 2 exemples d'Angela Merkel qui fait alliance avec le SPD, ce sont des alliances de forts qui représentent 50, 60, 70% de l'électorat. Là, il faut quand même bien voir qu'on passe notre temps à parler de tripartition, ok, mais elles sont les pôles sont vraiment pas égaux. C'est-à-dire que le pôle central, le môle des gens raisonnables, il est quand même très sur le reculoir et il pèse nettement moins lourd que celui de droite et celui de gauche. Donc ce serait quand même un gouvernement, c'est ça la grande limite de ce raisonnement. Je dis pas que les gens descendraient dans la rue, mais je pense que beaucoup de Français n'ont pas voté pour ça. Et donc si c'est la manière de sauver, si c'est la manière pour le président de la République de sauver sa peau, à mon avis, ça durera pas très longtemps.
Alors après, ça peut fonctionner un temps, mais ça se passera pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut déjà, pour que ça soit à peu près accepté par le pays, que cette espèce de gouvernement technique réunisse quand même une majorité, enfin, ou à peu près une majorité de Français qui ont voté pour les formations qui vont le composer. Donc ça va des LR jusqu'aux socialistes, voire aux écolos, aux communistes, en laissant de côté les filles de côté.
Oui, mais là, on nous explique qu'il vous faut des personnalités dans la réputation de renommée.
Ensuite, il faut quoi ? Ensuite, il faut une personnalité le plus charismatique possible, en tout cas sur un plan de compétences politiques. Donc ça peut être Bernard Cazeneuve, ça peut être un ancien Premier ministre du type Jean-Pierre Raffarin, il y a quelques noms qui circulent. Non, mais pourquoi pas ? L'important, c'est d'avoir la personnalité qui a les réseaux en interne, les réseaux en Europe, les réseaux internationaux, une forme de crédibilité,
qui
est capable de dire, moi, je peux, et globalement, comme je ne suis pas trop marqué politiquement par des écarts avec LFI, etc., je vais rassurer. Voilà. Et une fois que vous avez ça, il va falloir se mettre d'accord un peu à l'allemande sur une GROKO. Il va falloir réunir, vous imaginez, l'arc républicain, des communistes jusqu'au LR, pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et à supposer qu'ils arrivent à trouver un accord, ils vont avancer à court terme. Ils auront au moins une échéance majeure, c'est le budget. Et une fois qu'on aura passé le budget, on fait quoi ? C'est peut-être ça que les marchés apprécient. Parce que les marchés disent, de toute façon, ils ne pourront rien faire. Si ce n'est gérer les affaires courantes et puis voter un budget par an. Mais d'une certaine manière, si on avait pendant un an ou deux, on va rigoler un peu comme ça, juste comme ça. Bon, on va un petit sourire parce que c'est compliqué. Si pendant un an ou deux, on avait un peu moins de lois, un peu moins de décrets, un peu moins de normes,
on s'en porterait un peu mieux.
Dans un pays apaisé, vous auriez raison. Vu l'état du pays, je rappelle quand même que vous avez 35 plus 30% qui votent pour le RN.
Pour ça que je mets ça sur le plan de l'humour.
François Eyckel aussi signalait que fait même un gouvernement technique qui ne faisait rien n'arrangerait quand même pas l'état des finances publiques.
On rappelle qu'on a quand même une constitution qui prévoit, en cas d'incapacité du gouvernement à prendre une décision, de voter le budget et le projet de loi de finances par décret. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, on va se retrouver avec un projet de loi qui passera.
C'est là que vous avez intérêt à ne pas vous tromper sur le casting. C'est effectivement, si vous faites un appel à un gouvernement resserré de techniciens, de personnalités plus ou moins politiques, là, il ne faut pas se rater sur ce coup-là. Mais quand même, l'option où, dimanche prochain, le Rassemblement National obtient une majorité relative et arrive tant bien que mal à former une majorité absolue. Vous nous dites qu'ils pourront rien faire. J'entends ce que vous nous dites. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'à horizon de 6 mois, ce sont eux les grands perdants de l'histoire ? Parce que justement, vous ne pouvez rien faire finalement.
Est-ce que vous
dites... Oui. Est-ce que vous dites à la fin de l'année, en décembre, pardon de dire comme ça, on voit à travers finalement ?
Non, je suis pas convaincu parce que il y a d'abord.
Il y aura un budget à voter, ça va être du sang et des larmes.
Ils ont recentré leurs propositions. Deux, ils ont fait des annonces d'action extrêmement limitées et modestes, sur 3 dossiers seulement. Il y a 4 ou 5 mesures avancées. Donc, ils sont aujourd'hui à réaliser dans l'urgence. En fait, ils ont un programme qui est assez modeste et qui.
Mais vous voyez l'énormité des attentes en face. C'est pour ça que vous dites horizon de 6 mois.
Parlons d'un autre sujet que l'économie. Parlons de l'immigration. Giorgia Meloni, elle a obtenu des résultats au bout de 8 mois. Donc, c'est faisable.
Oui,
Mais
Giorgia Meloni, elle a été élue sur un programme qui avait un positionnement très fort sur le sujet migratoire, et elle est revenue dessus parce qu'elle s'est rendue compte que les entreprises avaient besoin de main-d'œuvre.
Oui.
Donc elle n'a pas du tout mis en place le programme pour lequel elle a été élue.
C'est dans le pas du tout que je ne suis pas d'accord, c'est qu'elle est allée beaucoup moins loin que ce qu'elle avait annoncé au départ. Mais regardez Lampedusa, regardez les arrivées par bateau, c'est quasiment asséché. Donc elle n'a pas rien fait. Et ces signaux-là, l'électorat l'attendait, ils les ont eus pour partie en tout cas, et en tout cas, ils ne l'ont pas sanctionnée aux européennes et elle est encore très populaire. Donc ce que je veux dire, c'est que Guillaume a fait le plaisir de m'inviter il y a 3 semaines, je suis venu dire que le RN avait 3 semaines pour faire sa mue méloniste là où Mélanie elle-même avait mis 3 ans. Donc,
vous me dites que c'est fait.
Comment ?
Vous me dites que c'est fait.
C'est fait en 3 semaines.
Ouais.
C'est fait à la va-vite. Mais bien sûr que c'était l'objectif. De toute façon, aujourd'hui, le modèle de toutes ces droites-là, c'est Giorgia Meloni. Mais sauf que là, le RN a effectivement 3 semaines et maintenant, il n'en a plus qu'une dans l'hypothèse d'une victoire, ce qui n'est pas acquis non plus.
Bon. Alexandre, non, mais c'est vrai que le RN, sur tous les sujets de fond et un peu clivant, ils disent en fait, on va faire un moratoire. Donc, ils ne prennent pas trop de risques.
Bon, en tout cas, ce que les Français nous disent, c'est que c'est ce qu'avait formulé Einstein brillamment, c'est pour dire qu'il ne faut pas compter sur les gens qui ont créé les problèmes pour les régler. Donc là, ils n'ont plus envie de... Évidemment, ils avaient cru qu'Emmanuel Macron et tout sa dynamique et son staff allaient faire le job. Ils sont déçus, ils sont en colère, donc ils veulent expérimenter autre chose. Ce qui risque d'arriver, si c'est le RN, en effet, ont une voie d'action qui est extrêmement étroite. Mais après, ça va se jouer sur quoi? Ça va se jouer sur la capacité à dire et à faire, à prendre des engagements qui seront tenables, sur certains sujets qui ne sont pas liés qu'à l'économique, mais qui sont liés au régalien, à montrer qu'ils sont capables d'avoir un engagement volontaire, de montrer qu'effectivement, il y a un combat en France pour restaurer l'autorité, pour pointer du doigt, et pas simplement pointer du doigt, des difficultés liées à des quartiers, à des problématiques internationales, sur lesquelles ils veulent clarifier les positions de la France. Voilà, tout ça peut raconter, en fait, envoyer un narratif qui peut permettre de tenir 6 mois, qui peut permettre de tenir 1 an, qui peut les amener, en fait, à 2027, avec un bilan qui sera qu'un cas, celui qu'on peut tenir en faisant pas trop de bêtises, en envoyant quelques signaux au marché.
C'est long, 3 ans. C'est long, 3 ans.
Oui,
c'est
mais,
long,
mais tout ans, est Alexandre, possible. Et en même temps, comme dirait l'autre, vous avez en fait finalement une adversité politique aujourd'hui qui, au niveau du centre, est quand même très, très en panne, et à gauche, qui est très inquiétante pour beaucoup de Français. Donc, ils peuvent faire le job. Voilà, je dis pas qu'ils y arriveront, mais ils peuvent se présenter en 2027, pas forcément en situation d'avoir tout perdu avant la présidentielle.
Bon, en tout cas, le RN pose les bonnes questions, ça c'est sûr. Est-ce qu'il apporte les bonnes réponses? C'est une autre question.
Nathalie.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est déterminant. C'est vraiment le côté sociétal, en fait, qui est important. S'ils viennent avec, comme il vient d'être dit, en délivrant des promesses sur l'autorité, le contrôle de l'immigration, en fait, c'est surtout ces points-là qui sont quand même très mis en avant par ceux qui ne sont pas contents.
Ils vont délivrer essentiellement sur l'immigration d'ici la fin de l'année.
Sécurité, immigration. J'ajouterais que tous les auteurs qui ont écrit depuis 15 ans sur cette rupture entre élite et peuple, David Goddard, Guy Luis, etc., montrent bien aussi l'immense importance du travail symbolique. C'est-à-dire qu'on a affaire à un électorat qui se sent maltraité, pour partie, à raison à mon avis, depuis 40 ans, maltraité, mal entendu. Je rappellerai toujours que le traité de Lisbonne voté par le Congrès, alors qu'il avait été rejeté, est un cancer de la démocratie française depuis 20 ans. Quoi qu'on pense de l'Union Européenne, c'est un cancer démocratique. Ce que je veux dire, c'est que la dimension symbolique, encore une fois, pourquoi est-ce que le RN fonctionne aujourd'hui? C'est un parti de paria, et qui incarne, si je puis dire, une dimension, quelque chose de pas du paria, et que beaucoup de Français se sentent paria. Donc en fait, ils votent pour lui parce qu'il est comme eux.
Et d'ailleurs, la cartographie justement des votes,
bien sûr. Elle est claire.
Bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que si, je suis très d'accord, s'ils ont des résultats sur l'immigration, sur la sécurité et sur le symbolique, et au fond sur l'économie, un peu sur le pouvoir d'achat, mais je suis assez convaincu que leur électorat leur en voudra pas, ils n'attendent pas du tout le grand soir.
Pas sur l'économie fondamentalement.
Le fond quand même du français par rapport à la chose politique, aujourd'hui, c'est quand même la désillusion. Le RN n'est pas...
En une phrase, les Français, Alexandre, de manière générale, mais n'importe qui, même dans une organisation, vous voulez quoi? Être respecté, écouté, protégé et guidé. Voilà. Si vous cochez ces cases-là, de manière symbolique ou de manière concrète, vous avez un chemin politique. Voilà. Si vous regardez les 7 années qui viennent de passer, écoutez pas trop, respectez plutôt brutalisé, protégez, beaucoup de gens se disent on est de moins en moins bien protégé, et puis guider, en même temps, nous a mis nulle part. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas clair, comme dirait l'autre.
Oui, je suis d'accord avec vous, et ce qui pose aussi problème, c'est quand Emmanuel Macron crie au loup aujourd'hui en disant attention, le programme de l'extrême droite va faire exploser le déficit, c'est inaudible. C'est inaudible de la personne qui a créé les fameux 3 000 milliards de dettes.
Non, complètement, non, c'est vraiment minimaliste ce qu'ils font au niveau économique. Encore une fois, ce qu'ils ont présenté, c'est sans doute pas les meilleures réformes, mais c'est pas les pires non plus. Donc, de toute façon, il va pas se passer grand-chose au niveau économique.
Conclusion, le grand soir n'est pas pour
demain matin, voilà. Effectivement. Conclusion, il faut déposer des sièges pour que les taux d'emprunt ne s'emballent pas trop. Non, mais c'est ça, finalement, on en revient toujours à la même chose. 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, les experts du soir sont toujours avec nous. Jean-Thomas Le Sueur, Alexandre Malafaye et Nathalie Janson, et puis bien sûr Guillaume Paul. Donc on est de retour pour commenter les résultats de ce premier tour des élections législatives. On voulait élargir la réflexion au-delà des incidences économiques de l'éventuelle arrivée au pouvoir du RN aux incidences sur le plan politique. Et oui, c'est important que disent finalement ces résultats de nos institutions.
Ça c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est l'heure du grand bing-bang institutionnel? Est-ce qu'il faut
faut y réfléchir, tout du moins. Jean-Thomas, vous avez publié hier dans le JDD, hier dimanche, une tribune intitulée « En finir avec l'absolutisme inefficace », si je ne me trompe pas, dans laquelle vous dites clairement « Ce système institutionnel est à bout de souffle, on a radicalisé le régime à coup de quinquennat, inversion de calendrier électoral, décentralisation recentralisatrice ». Alors ça, il faudra nous aiguiller un petit peu sur ce concept. Non, est-ce qu'on est, on est mûr pour un big-bang institutionnel? C'est ça que ça veut dire?
Je ne sais pas si on est mûr.
Est-ce que vous en faites le mal absolu de
Ce que j'essaie de dire dans ce petit papier, qui est la suite de travaux passés, c'est que, évidemment, Emmanuel Macron a porté la décomposition du système politique à son terme. Évidemment, il y a 20 ans de mauvaises réformes, et vous les avez citées, le quinquennat, l'inversion du calendrier. Effectivement, depuis 20 ans, une espèce de recentralisation rampante, etc. Donc, des mauvaises réformes, des mauvais choix. Mais je suis assez convaincu que la Ve République elle-même, qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un régime semi-présidentiel, mais un régime hyper-présidentialiste, porte les germes de la crise que nous voyons. Le titre qui a été donné par le journal est évidemment un hommage et une formule du grand Jean-François Revel. Hein.
Oui.
L'absolutisme inefficace est un livre extraordinaire de 1993. Dans lequel il s'en prenait à la fois François Mitterrand et à la Ve République, et je crois que son diagnostic
très était actuel,
oui, était excellent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un système, alors pour vous le dire très vite, extrêmement pyramidal. Tout procède du président, tout remonte à lui. Donc, il n'y a pas de respiration démocratique. Il y a une espèce d'étouffement, si je puis dire, des contre-pouvoirs qui, en fait, dans ce pays, n'existent à peu près pas. Et donc, en fait, assez logiquement, les Français se tournent exclusivement vers lui. Donc, en fait, on élit un roi et on le brûle. On cherche à le brûler 3 ans après. 7 ans après, en l'occurrence. Je suis assez convaincu que la France aurait besoin d'une profonde réforme institutionnelle pour un régime, encore une fois, plus décentralisé, où les pouvoirs sont davantage disséminés. Après, c'est évidemment pas le moment tout de suite, mais il me semblait intéressant de rappeler, dans le cadre de ces élections un peu rapides, ce mal-là qui m'apparaît être un des mots français importants.
Oui, sauf que, en réalité, la grande réforme de l'État dont vous parlez, finalement, elle est complètement inexistante. Personne n'en a parlé lors des débats.
Non, parce que c'est en général pas un sujet qui passionne les gens. Ce qui intéresse les Français, en revanche, c'est la démocratie. Ça, en effet, quand on va sur le terrain de la démocratie, notamment participative, pouvoir interpeller les politiques, pouvoir voter en direct, pouvoir, à un moment donné, faire un référendum d'initiative citoyenne, etc., c'est des sujets qui intéressent les Français. Ça montre bien qu'il y a une appétence pour une certaine forme de question institutionnelle, mais ramenée sur l'exercice de la démocratie. Après, en fait, moi, avant de prendre un peu de recul sur le sujet, je pense qu'il y a, en fait, une analyse première à faire, c'est que tout ça confirme qu'il y a, et c'est en lien avec ce que vous évoquiez, c'est un échec de la méthode. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner un pays, et on ne peut pas diriger une entreprise si on n'a pas une méthode. Voilà. Et la méthode, elle se repose sur un ensemble de fondamentaux en démocratie. Il faut fabriquer du consentement. En effet, il faut écouter les gens. En effet, il faut faire adhérer et non pas chercher à faire obéir. Une fois tantôt, on peut passer un truc en force parce qu'on estime que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais ça ne peut pas être le modèle permanent. Ensuite, il faut en effet travailler avec l'ensemble des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Il faut associer les partis concernés, en l'occurrence les partis partenaires sociaux, mais pas seulement. Voilà, il y a une multitude de façons d'actions à entreprendre pour faire et faire bien, et en tout cas faire avec de la confiance qui est, je le rappelle, quand vous regardez le baromètre Sciences Po, Cevipof tous les ans depuis 15 ans, vous montre que la confiance envers les hommes politiques et les femmes politiques de ce pays, c'est entre 10 et 15% par an. Ça dit quelque chose, quand même. C'est une constante. Voilà. Et les mots qui viennent souvent à l'esprit des gens, c'est dégoût, rejet, colère, etc. Donc tout ça doit être pris en compte très sérieusement. Donc à court terme, je pense que ceux qui rêveront aux affaires, quels qu'ils soient, doivent se remettre en cause sur la méthode, avec des choses simples. C'est-à-dire de dire, voilà, à un moment donné, de changer le vocabulaire, arrêter de dire je, mais de dire nous, envoyer des signaux en matière de sobriété de l'usage de la parole publique, d'envoyer des signaux pour dire on va vraiment réfléchir sur des questions de fond, comme par exemple effectivement les institutions, se poser la question du vote blanc. En 2017, on a fait un sondage, même un mois avant l'élection d'Emmanuel Macron, 40% des Français auraient aimé voter blanc pour dire non. Un mois avant son élection. Je veux dire, ça, si on avait fait un vote blanc cette année, je pense qu'il ne serait pas à 40%, il serait à 70% de gens qui auraient dit non, on veut rien de tout ça parce que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas convaincant. Donc il faut remettre à plat les institutions et à court terme, pour éviter le chaos, il faut changer et envoyer des signaux de méthode pour mieux faire tout de suite.
D'ailleurs, à ce propos, il y a eu deux très bons articles de Thierry Aymard dans l'Opinion et je ne sais plus lequel, c'était Les Échos je crois, sur la problématique du vote blanc, parce que je pense qu'effectivement ça devient un sérieux problème de refuser à la population en fait de ce que veut dire un vote blanc, c'est, ça devient compte tenu de la situation est un vrai problème aujourd'hui.
Je vous entends.
Pour le reste, bien sûr que effectivement Emmanuel Macron en fait il a passé son temps à faire de la fausse, enfin à faussement et entendre les gens. Il en a fait
Les heures de grand débat, oui.
Voilà, les heures de grand débat, il y en a eu plein, mais en fait, c'était faux. Enfin, c'était juste pour faire genre, mais en fait, c'était pas dans l'ADN de la façon dont il a gouverné. Donc, ça peut pas être cohérent. Et c'est vrai qu'on a bien mesuré avec les années cette absence de volonté de consensus qui est quand même très importante.
Je vous entends sur les freins, enfin, les manquements de la 5e République, mais on peut pas en faire tous les mots MAUX de ce dont souffre de la France et de l'économie française, malgré tout. Si la France ne produit pas assez, si la France n'est pas assez compétitive.
Non, mais
ça entre en considération.
Oui, mais on en revient au sujet de méthode.
Vous avez raison. Mais justement, pour faire plus d'économies, pour faire plus d'efficacité, on ne peut pas passer tout ça en force.
Alors, il faut quoi, Alexandre, concrètement? Voilà.
Écoutez, moi, si j'étais aux affaires à court terme, c'est vrai que je commencerai par sur les grandes questions essentielles. On avait suggéré ça à Emmanuel Macron en 2017. Je ferai une espèce de Grenelle de la démocratie pour vraiment remettre, avec les parties prenantes concernées, une réflexion de fond sur comment on fait. Parce que qui est assez malin pour dire ce qu'il faut faire vraiment pour avoir les bonnes institutions. Donc il faut prendre un peu de temps pour y réfléchir. Ensuite, je prendrai effectivement la peine de réassocier les partenaires sociaux sur les grands sujets sur lesquels on doit travailler en profondeur.
On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait, Alexandre, ces dernières années, d'essayer de remettre les partenaires. On l'a fait faussement.
On a réuni, mais on ne les a pas écoutés.
On l'a fait faussement. On leur a fixé dans certains cas des feuilles de route en leur disant voilà, on vous réunit, à application de la loi Larcher, et puis voilà, mais vous devez arriver à ça. Bon, à un moment donné, si vous faites l'impossibilité de faire fabriquer un consentement entre les parties, après le pouvoir politique reprend la main et fait ce qu'il veut faire. Bon, donc il y a toute une série d'outils qu'on peut mieux utiliser, de respect des institutions, de respect des parties prenantes, partenaires sociaux, etc., qu'on peut mettre en œuvre. Et en effet, après, sur les grandes questions de rééquilibrage des pouvoirs, c'est tellement compliqué quand on rentre dans le détail, tellement compliqué, tellement lourd de conséquences. On a bien vu les fausses bonnes idées, il y en a eu plein. Le quinquennat, c'était génial, super. Voilà, tout le monde se rend compte que c'était une bêtise. La suppression du cumul des mandats, c'était apparemment une bonne idée. On se rend compte, parce que quand on modélise, donc dans la durée, il faut faire très attention. En revanche, les expérimentations démocratiques qui ont eu lieu, notamment sur les assemblées consultatives citoyennes, convention pour le climat, etc. Oui. Pas très bien la première, un peu mieux la seconde. Il faut les démultiplier. Mmh. Quand vous réunissez de façon délibérative X citoyens tirés au sort pour leur fixer sur une question précise l'ambition d'apporter une réponse qui éclairera le débat public, vous avez la chance d'avoir un élément de décision qui va aider les Français à dire voilà, des gens pensent que ça c'est bien. Ça vous aide à fabriquer une
loi. Oui, alors Alexandre, attention parce que ça peut être extrêmement déceptif. Je vous rappelle évidemment le grand débat qu'il y a eu sur le sujet environnemental.
Le premier, oui.
Emmanuel Macron avait promis, s'était engagé à reprendre l'ensemble des suggestions citoyennes.
Tout à fait.
Et ça ne s'est pas
fait. Il a fait une bêtise. Il a dit que ce serait repris sans filtre. Et puis, il y a une méthode à respecter, là encore. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire que vous ne posez pas 150 questions à 150 personnes. Vous posez une question précise avec l'objectif d'avoir une réponse précise.
Oui, je pense qu'on pourrait dire une règle d'or, si je puis dire. Parce qu'après, on peut effectivement se discuter sur les modalités. Moi, je suis très sceptique sur les démocraties représentatives. La démocratie participative, pardon.
Délibérative.
Oui, mais je pense qu'il faut, bien davantage revaloriser la démocratie représentative et la démocratie directe, notamment locale. Je pense que la bonne, plutôt que les grands débats en sortie des Gilets jaunes, on aurait mis en place un référendum d'initiative locale à la Suisse où les Français votent régulièrement sur les enjeux locaux. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la règle d'or, c'est de faire entendre aux politiques, en l'occurrence l'actuel président de la République, mais tous les autres, que d'autres peuvent faire à leur place. Que ça peut même être mieux fait sans eux. Ouais. Et, non mais c'est très frappant. Moi, j'avais été un peu associé aux travaux sur le Conseil national de la refondation, qui est encore un machin de plus alors qu'il fallait.
Qui a fait pchit alors qu'il y avait beaucoup d'espoir.
Qui était une idée de Sinopia qui a été reprise et dévoyée.
Hein. Et ben voilà.
C'est le pouvoir politique qui pense que c'est à lui d'organiser ça. Non, nous ce qu'on demande, enfin ce qui me paraîtrait sain pour le pays, c'est que le pouvoir politique, en l'occurrence étatique ici, ne s'occupe pas d'un certain nombre de choses. Qu'il puisse faire confiance à des acteurs locaux ou des partenaires sociaux qui peuvent aussi avoir des vues et servir le bien commun. C'est ça qu'on leur demande. Et en fait, c'est psychologiquement très compliqué pour eux, j'imagine pour un homme comme Emmanuel Macron, d'entendre que quelqu'un d'autre peut faire mieux que vous.
Mais alors précisément sur ce sujet-là, on voit bien que la situation actuelle dans laquelle on se trouve montre que plutôt que chercher à comprendre les raisons de son échec, il préfère renverser la table. Sauf que renverser la table quand on n'a rien de nouveau à proposer, c'est suicidaire. Et ça s'est vu hier.
C'est sûr que oui, là on est quand même dans une situation qui est très problématique et en fait il passe son temps à dire que voilà c'est pas de sa faute mais c'est les Français qui ont voté mais bon c'est un peu facile quoi puisque de toute façon il a provoqué cette situation donc en effet c'est Je pense qu'il il passe son temps en fait à s'enfoncer et en effet à rendre la population encore plus en colère par rapport à la situation dont on a hérité à cause de ses décisions. Et ça, le fait qu'il n'assume pas reconnaisse pas que finalement cette décision prise ait peut-être été une erreur, je pense que voilà, il continue à s'enfoncer.
Je pense qu'en fait, il ne comprend pas. Comment faire autrement? Oui. C'est presque consubstantiel à sa personnalité, parce qu'il pense qu'il a une bonne analyse, une bonne vision des choses, et ça ne marche pas. Donc ça, c'est un problème de personnalité. Mais après, là où, en effet, les prochains, de toute façon, devront se poser un nombre de questions, c'est qu'en effet, un système qui remonte tout vers le sommet ne peut pas, à un moment donné, ne peut pas être autrement qu'en situation d'embolie. Et la subsidiarité, c'est une grande clé, mais elle remonte à l'Union européenne. Il faut aussi, et c'est pour ça que ce sera intéressant de voir qui fait quoi demain au niveau de l'Union européenne et quelles sont les inflexions qui vont être apportées par notamment la recomposition de l'Assemblée européenne avec effectivement le PPE qui a plus de pouvoir, qui est favorable à plus de subsidiarité. Il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. Mais c'est pour ça que je vous rejoins sur un point, c'est que je ne sais pas si j'ai raison ou si vous avez raison, mais ces questions de modification profonde de l'art et la manière de gouverner, il faudra les mener de manière collégiale pour essayer de trouver les bons dispositifs. Parce que je pense qu'effectivement la démocratie représentative est essentielle, mais en revanche, il faut fabriquer un espèce d'arc, de système d'arc qui vienne l'enrichir avec d'autres dispositif, et il faut tester, il faut expérimenter. Tout ça, c'est à la clé, c'est le consentement et la confiance des Français qu'il faut petit à petit retisser.
Le problème, c'est que vous demandez ça à Emmanuel Macron, qui est encore là a priori pour 3 ans, qui est quand même pris par l'urgence du moment, et l'urgence pour lui, c'est de tout faire pour qu'en 2027, il ne laisse pas la main sur le perron de l'Elysée, il ne laisse pas la place à Marine Le Pen. Comment est-ce que vous voulez prendre le temps de la réflexion, d'une remise à plat des institutions dans ce genre de
configuration? Mais ça, c'est
absolument impossible. Le temps politique,
ça veut dire qu'il
le temps politique ne s'y prête pas.
Des affaires d'hommes, c'est-à-dire que précisément si un chef de l'État, ne sait pas s'abstraire, il est possible que celui-ci ne sache pas le faire, de s'abstraire de l'actualité, des réseaux sociaux et des boucles Telegram, c'est un problème. C'est-à-dire que si le chef de l'État n'est pas capable de consacrer des soirées à dîner avec des experts de la décentralisation ou avec des écrivains ou avec des grands sportifs, pour penser à... D'abord, je pense que c'est assez sain humainement aussi. Il y a le très beau mot de Monterland, hein, la passion abolit tout ce qui n'est pas elle. Je pense que la passion de la politique rend dingue. Donc je pense que c'est assez sain que tous les hommes aient aussi le goût de lire un jour, de regarder un paysage, un coucher de soleil ou de lire un peu de poésie. Voilà, je pense que la politique H24...
On lui conseille Chateaubriand.
Voilà, après ce qu'on veut, voilà, naturellement.
Ou l'île d'Elbe.
En fait, c'est une espèce d'overdose de politique, d'overdose de présence politique, y compris pour les Français. C'est le fameux mot de Pompidou, hein, arrêter d'emmerder les Français. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde et qu'on invente effectivement des mécanismes modestes au seuil de la porte des Français. Ah. De consultation.
Non, mais surtout quand, en effet, en fait, pour conclure en tout cas cette partie du débat, l'échec de la politique d'Emmanuel Macron, c'est l'échec du technocratisme dans la gestion publique.
Il a poussé vraiment au paroxysme. Ouais. Personne ne l'avait éprouvé jusque-là, mais lui, il l'a effectivement fait.
Donc, après, il était l'héritier du cercle de la raison d'Alain Minc. En fait, moi, j'ai souvent que le macronisme est un rêve de vieux, parce qu'en fait, c'est la mise en œuvre.
Il faisait pas ça en 2017, si,
comment,
déjà
comment
En 2017.
Oui, parce qu'en fait, c'est la mise en œuvre d'un fantasme des années 80. Qui est celui d'Alain Minc.
Alors, et pourtant, Alain Minc, c'est largement répondu dans les médias. Mais
enfin, cette idée qu'il n'y avait qu'en gros qu'un mode de gouvernement, qu'un faible espace, qu'un faible champ politique où en fait la raison pouvait s'entendre et devait gouverner, il est l'incarnation absolue de ça. Et effectivement, c'est très en retard parce qu'au contraire, on est dans une phase de rebipolarisation politique
Alors, oui, on pourrait disserter pendant des heures sur Chateaubriand, ce que vous voulez.
Allez, on avance.
5 petites minutes avant vos avis pour parler un petit peu d'Europe. Vous demandez si la construction européenne est de nouveau potentiellement au tapis, si d'aventure le RN arrivait au pouvoir lundi prochain. Il y a beaucoup de déclarations de responsables européens assez inquiets aujourd'hui. Ça commence vraiment à ressembler à un grand danger, a dit Donald Tusk, Premier ministre polonais. Giorgia Meloni qui se réjouit que la diabolisation de l'extrême droite soit moins suivie, je cite. Et puis l'Allemagne qui répète que l'Allemagne et la France portent une responsabilité particulière pour notre Europe commune. Est-ce que l'Europe s'apprête à vivre à nouveau crépuscule comme nous en avons tant connu passé finalement?
Je ne crois pas du tout, parce que d'abord les équilibres au niveau du Parlement européen ne sont pas bouleversés. Donc on a en effet une petite évolution au niveau du PPE qui sort plutôt vainqueur de ces élections et globalement qui est en capacité à fabriquer une façon de faire passer les textes qui vont bien et qui fera passer sans doute des textes qui seront plus favorables au monde économique, je pense, et qui sera effectivement un peu plus pédale douce sur le Green Deal, des sujets qui ont pas mal crispé les Européens de manière générale. général, les agriculteurs en particulier chez nous. Voilà. Donc je ne suis pas très inquiet sur cet aspect-là de la gouvernance. En revanche,
je parle plus de l'ambiance à table entre les chefs d'État et de gouvernement. Alors, vous voyez, ça,
peut-être pas la... ça sera l'ambiance, ce sera plus compliqué, c'est sûr, surtout si on a un président qui est très affaibli chez lui, ce qui est sans doute le cas. Mais le vrai dommage pour la France, c'est plutôt au sein des autres institutions européennes, c'est-à-dire au sein du Conseil et de la Commission. Voilà. Au sein du Conseil, ça c'est très clair que pour le coup, la voix de la France va très peu compter. Donc la volonté, l'impulsion présidentielle française qui était reconnue et souvent saluée dans toute une série de sujets et en même temps de créativité, parce que portée par une légitimité, là il n'y a plus beaucoup de légitimité, donc c'est plus difficile de lui dire t'as raison, on t'écoute. Et après au sein de la partie importante qui est quand même la commission, là on risque d'être en grande difficulté sur les nominations à la fois du commissaire français, dont on pense qu'effectivement il ne risque pas de tomber entre les mains peut-être de Thierry Breton et peut-être les commissions.
Thierry Breton a été préempté par Emmanuel Macron, vous avez pris devant, vous avez vu.
Oui, mais on verra. Oui, c'est très bien pour lui, mais je ne sais pas si c'est mieux d'être ici ou là-bas, très objectivement. Oui. Voilà, mais une fois qu'on a dit ça, l'important, c'est quand même d'avoir un commissaire sur une commission forte, et puis après, c'est toutes les autres nominations. Parce que la partie visible et les top jobs, c'est bien, mais tout ce qui est en dessous, les directeurs de cabinet, les directeurs d'administration, etc. Et tout ça, si on n'est pas en position de force, ce sera encore plus compliqué pour les obtenir. Donc, pour nous, ce n'est pas une bonne séquence. Ouais. Pour l'Europe, elle va avancer, bien sûr. Si ça freine les élargissements, on verra. Mais on n'en est pas là.
Alors, surtout, enfin, ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette vague rouge qui arrive en France, elle contamine l'Europe entière. Et est-ce que l'Europe n'a pas fait de deux erreurs majeures? Un, quand elle abolit les frontières entre les États sans mettre de contrôle clair aux frontières, et une union monétaire qui s'est faite avec des pays qui n'étaient pas tout à fait préparés. On a eu une crise de l'euro et une crise des migrants. Nathalie.
Sur l'euro, il est certain qu'on peut se poser des questions. Et justement, je pense que ça renvoie beaucoup à ce problème de consentement, justement, hein, puisqu'on souvent on évoque la maison commune avec le consentement aux règles, et on voit bien que le consentement aux règles, en fait, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il est théoriquement, il est là, mais dans les faits, il est difficile à accepter. Donc les gouvernements, chacun dans leur pays, à chaque fois qu'ils voient bien qu'ils ne sont pas tout à fait dans la ligne du parti, c'est-à-dire de celles qui fondent l'union monétaire, à savoir d'avoir des politiques économiques relativement similaires, on voit qu'au niveau de chaque nation, ça crée des tensions. C'est-à-dire que la population n'est pas d'accord avec ce qu'il faudrait faire pour effectivement aller dans le sens des règles européennes. On le retrouve sur les débats les règles du pacte de stabilité et de croissance.
Jean-Thomas, est-ce que c'est un nouveau coup dur pour l'Europe si d'aventure, trois petits points, voilà.
Oui, je crois assez également qu'il n'y aura pas de secousse plus forte que ça. De toute façon, l'Union Européenne, pour reprendre une formule du Président de la République, elle est quand même à peu près en mort clinique. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien quel est le projet européen aujourd'hui que défend Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, à part l'article 5 du préambule, c'est-à-dire une union sans cesse plus étroite, c'est quoi le projet politique?
Du moteur thermique à horizon 2035.
on en reparlera.
De toute façon, l'Union Européenne reste ce qu'elle est depuis 1985, quand Jacques Delors parla d'OPNI, d'objet politique non identifié. Le problème, c'est que c'est vécu par les peuples, et ça vous avez raison, comme des structures non démocratiques et qui décident à leur place. Donc, l'Union Européenne a un immense problème démocratique, nous le savons tous. Je ne suis pas du tout convaincu qu'effectivement l'arrivée du RN changera les équilibres. Enfin, ça, c'est sûr que nous, au Parlement européen, et même au sein de la Commission et du Conseil. Ça bousculera un peu les habitudes, mais la machine, l'inertie est forte.
Non, je vous pose la question parce que les déclarations côté allemand ne sont pas très enthousiastes depuis une dizaine de jours.
La majorité allemande.
Olaf Scholz. Oui, voilà, allez vous dire, Olaf Scholz, ce n'est pas non plus tout à fait en position.
Bonjour, c'est celui qui dit qui est, oui, on est d'accord, effectivement.
On est dans le théâtre habituel.
Oui.
Bien, il nous reste 3 minutes.
Eh bien, c'est l'extra time.
Oui, comme tous les soirs, vous avez du soir. Coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, à peu près 30 secondes, bien sûr. Vous avez le choix du sujet. Qui va commencer? Nathalie va commencer, bien sûr.
Eh bien, pourquoi pas. Donc, justement, c'était à la main que j'ai lu en me disant, effectivement, il a beaucoup changé. Et là, aujourd'hui, il y avait une citation que j'ai trouvée assez jolie où il a dit « Les erreurs historiques sont pardonnables, celle-là ne l'est pas ». À propos donc de la dissolution faite par Emmanuel Macron.
Sacré coup de canif.
Donc là, oui, c'est puis tout le reste de l'interview est sur le même ton, donc il y va grandement.
Bon. À la main, visiteur du soir parmi d'autres quand on parle d'avion.
Ex,
ça risque d'être la dernière.
Ex et peut-être futur, qui sait.
Effectivement.
Alexandre Malafaille, c'est à vous 30 secondes, mon cher Alexandre.
Alors, c'est un coup de gueule sur la façon dont le débat sur l'aide médicale d'État est posé. D'un côté, on a le RN qui dit on veut le supprimer, de l'autre côté, on a les experts qui disent c'est impossible parce que c'est essentiel pour la préservation de la santé des Français, et puis c'est comme ça parce qu'on a des valeurs, etc. Bon, moi je dis c'est peut-être pas la bonne manière de poser le sujet. Il faut déjà en parler sérieusement parce que, un, est-ce que durablement on aura les moyens de dépenser 1,2 milliard, même si on dépense 250 milliards, on peut se poser légitimement la question. Et deux, il y a peut-être moyen de faire mieux et autrement, sans forcément que ceux qui posent la question soient systématiquement traités de racistes. Voilà, c'est une question de méthode une fois encore.
Voilà, pour le coup de gueule ce soir d'Alexandre.
Jean-Thomas Le Sueur, la parole est à vous.
Tout petit coup de cœur pour le coup, j'ai découvert, malheureusement j'ai oublié de prendre la liste, 12 communes en France, hier, ont eu 100% de taux de participation.
Ah oui.
Et voilà. Et comme on a tous félicité.
Il y avait un bon cadeau.
Et intéressante pour finir sur les sujets que nous aimons. Des toutes petites communes, évidemment. Alors, il y en a en Moselle, dans le Berry, en Corse. Des toutes petites communes où, évidemment, on sait bien, l'engagement est toujours plus fort.
C'est vrai.
Le taux de participation est toujours plus élevé.
Un nom? Vous n'avez pas un nom? Comment? Vous n'avez pas un nom?
Je suis confus.
On vous partagera la liste demain.
La dépêche du midi.
Non, mais c'est vrai que c'est un taux de participation législatif qu'on n'avait pas connu depuis 1978.
Oui. 66%?
Oui.
C'est comme une présidentielle, en fait.
Ouais. Oui, c'est ça.
Les gens avaient vraiment besoin de voter pour dire « je serai 2002 ».
Non, mais ça veut dire que les gens, en fait, se déplacent quand ils ont vraiment l'impression que leur vote compte.
Sérieusement.
C'est pour ça qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait des votes plutôt extrêmes.
12 communes sur 3600, quand même.
36 000.
Sur 35 800.
Sur 36 000, pardon. Moi, j'ai 35 800 communes aujourd'hui en France. Très bien. Eh bien voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus. Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More, Alexandre Malafaille, président fondateur de Sinopia, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Merci à tous les trois pour ce beau débat.
Merci beaucoup.
Et en plus, vous savez quoi, l'équipe de France a gagné 1-0. L'équipe de France est en quart de finale du championnat.
Ah, et ça, c'est notre coup de cœur.
Voilà.
On a fait mieux que la Belgique cette fois.
On a fait mieux que la Belgique, on a tenu plus longtemps.
On ne peut pas mieux terminer cette émission.
C'est fini pour ce soir.
Et oui, c'est passé très vite, trop vite comme toujours. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Ça en fait des bonnes nouvelles. Demain 18h, 20h, même endroit pour de nouvelles aventures en direct dans un instant. Tekanco, François Sorel et toute l'équipe, bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.